Ah, c'est à moi là ? On est en retard, on est en retard. Je ris de me voir si belle en ce miroir, chantait la Castafiore dans Tintin, et je ris de voir le message de Kiné22. Et oui, c'est pour toi. Kiné22 qui, plein d'énergie, plein de fougue dans le chat, écrit: c'est quoi le titre de cette commission ? Médias en ligne, c'est vague. Est-ce que Frontières sera interrogé ? Alors tu vas rire, je commence à me pencher sur le travail des sénateurs. Arrête, Sugar, de spoiler, bordel ! Des sénateurs, et donc qui font effectivement, qui ont lancé une commission sur les médias en ligne, et Frontières vient d'être auditionné aujourd'hui, je crois, le 15 avril. Voilà. Ça va, Kiné22 ? Ouais. Ah, qu'il y a des gens pleins de fous comme ça, je sais pas si, comment je dois leur répondre. Tu sens que c'est un sujet vraiment important. Bah, on va pas aller sur les frontières, mais peut-être qu'on se le fera. Peut-être qu'on se le fera un moment. Là, on va sur. C'est écrit, hein, c'est comme le Père Salut. Le Port Salut, c'est comme ça qu'on disait avant ? Vieux fromage, ça. Jean Massier, Hugo Décrypte et Gaspard G. Tu es en forme ce soir ? Pas du tout, justement, du coup, je compense. Bon, Sugar, tu peux spoiler autant que tu veux. Vous vous rappelez de le plus vieux, le fromage, le Port Salut ? Est-ce que c'est... Je me trompe ? Oui, bien sûr ! Bien sûr, le Port Salut ! Ah, les jeunes ! Voilà. Et le slogan, c'était: le Port Salut, c'est écrit dessus. Ou c'est marqué dessus. Ça existe encore, ça ? C'est bon, ça ? Écoute, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Le fromage originel des moines devait sa saveur au secret de Darfeld, du nom d'une localité de Westphalie. On dirait du comté ? Non. Non. Alors, le secret des moines, ça fait un peu peur. Hein. Le secret des moines, t'as pas envie... Waouh, je voudrais pas... Pardon, hein, je voudrais pas partir sur des trucs bizarres, mais... Secret des moines, fromage... Ouais, bon, bref. Je voudrais... Hein. Ok. Et alors, et donc, il avait un slogan. Il avait un slogan qui était très connu. Voilà. Slogan. Pasteurisé au plus près des moines, exactement. Non, ils disent pas ça, non ? Slogan. Parlez pas de bouffe, j'ai faim. On parle pas de bouffe, on parle de Port Salut. Slogan. Slogan. Ah, slogan. Voilà. Culture populaire. Dans les années 60, depuis les années 60, promouvant la marque Port Salut, les publicités avaient pour slogan: le Port Salut, c'est écrit dessus. T'imagines la réunion des créatifs de l'agence de pub. Putain, encore un fromage, qu'est-ce qu'on va dire ? Qu'est-ce qu'on va dire, quoi ? C'est un fromage qui a un goût de fromage, quoi. Et là, il y a un mec qui a eu une fulgurance. Il a dit: mais sur le Port Salut, sur la croûte du fromage, là, c'est écrit Port Salut. Les autres l'ont regardé, du ouais, ok. Ouais. Eh bien, et si on faisait ça comme slogan: le Port Salut, c'est écrit dessus. Voilà. Les mecs l'ont regardé. Ils ont dit: c'est nul, mais ils n'avaient pas d'autre idée. Et c'est. Voilà. Et c'est passé dans le langage courant. Comme quoi. Sacré Didier. Oui, c'était Didier, comment tu sais ? Ah, toi aussi, tu. Je vois trop Samuel en tonton bourré au fond de la salle avec ses anecdotes. Ouais, ma famille, au sens large, les frères, les sœurs, tout ça. Ont toujours une petite lueur de panique quand je commence à raconter une histoire. Parce qu'ils savent que ça va être encore n'importe quoi, que tout le monde va devoir rire d'un petit rire gêné en disant: ah, putain, j'en peux plus. Ouais. Bonsoir Samuel, merci pour la soirée d'hier, c'était très sympa, me dit Anne. Alors c'est fake news, Anne. Hier soir, j'étais en stream. Et je ne passe pas des soirées comme ça avec une autre femme que mon épouse, je veux dire. Ça, c'est fake news, ça. J'étais en stream hier soir. Soirée très sympa. Et c'est pas une vidéo YouTube, hein, c'est du live. Hein. Rires. Et alors, je vois qu'ils ont une autre campagne. Ils ont une autre campagne. Quoi? Quoi? Tu l'as trop écrasé, César, ce port salut est un alexandrin et palindrome, mais on s'en fout. Victor Hugo? Incroyable. Ok. Ok. Alors, attendez, bon, on va essayer de trouver le slogan, le port salut. Le port fromage port salut. Pub. 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 Non, le stream hier soir était vraiment cool, ouais. Attends, mon PC, on pensait qu'il peut faire tourner les plus gros jeux, il peut pas faire tourner Google, quoi. Eh ben. Bon, ben. Ciao. Ah oui, oui, c'est vraiment cassé, j'ai cassé, ok. Alors que j'avais tout préparé bien et tout. YouTube, ça dépote. Port salut pub, c'est reparti. T'as écrit dessus. Les mecs, ils ont fait des décennies de pub avec ce concept. Comme quoi. Incroyable, hein. 98, 98. Oh, Belle des Champs. Vous vous souvenez de Belle des Champs? Ah, Facebook, non, pas Facebook, non. Attends, pub. Je vois que ça a été écrit par Gotener. Oh, Belle des Champs. Vous rappelez Belle des Champs? Ouais, bon, je chante pas très bien, mais bon, c'était un peu ça, quoi. Allez, soirée fromage, on oublie la politique, let's go. Allez, on remet ça. C'était Belle des Champs. Chanté par Gotener. Pour les plus anciens, c'est la voix de Gotener qu'on entend là. Incroyable. Incroyable. C'est fou, hein. C'est Gotener. En canon. Hein, c'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est incroyable. Incroyable. Ouais, on va pas partir sur les pubs, mais... Tu réalises que plus personne ne connaît Gotener. Mais Gotener, Gotener. Les amis Gotener. Il a fait plein de pubs. Oui, 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 mais je crois qu'il vient de la pub même. Comme Ardisson. Ardisson, il venait de la pub aussi. Qu'est-ce que je peux vous faire goûter de Gotener? Le Yuki, le Mambo du Décalco. Ah, vous ne connaissiez pas ça, hein? C'était un putain d'artiste, Gotener. Bon, évidemment, c'est un peu vieilli, mais... Pro Primitif. Ah, je me rappelle ça aussi. Ah ouais. Comment il a failli foutre le vase par terre? Le clip est génial. Incroyable. Ah ouais. Je pense au choc visuel de certains dans le chat, les plus jeunes qui n'ont pas connu Gotener. Voilà, et puis parmi les plus connus, t'avais le Yuki aussi. Le Yuki. Il est où? Hein, le Yuki? C'est la pub, ça. Ah, les plus jeunes, vous n'avez pas. Oh, le coup du vase à gauche, le coup du vase qui a failli tomber, c'était quelque chose quand même d'énorme. Toute ma jeunesse. Ah, quel bonheur. Certains s'interrogent, mais qui écoutait ça? Eh bien, tout le monde. C'était le mec avait un ton, il avait un vrai talent d'écriture par ailleurs, et c'était des énormes succès. Richard Gotener. J'espère qu'il nous a pas quittés. Ça a pas mal, ça a pas si mal vie. Je pense pas qu'il nous a quitté. On va lui rendre hommage. Non, il est toujours vivant, 78 ans. Chanteur, acteur, publicitaire, il a écrit la plupart des textes de ses chansons. Ancien pote de Jackie en colonie avec Jackie du club Dorothée. Voilà, il crée une agence de pub en 74. Voilà. Après avoir été renvoyé une première agence de pub pour mauvais esprit, hein, au fil des années, il crée des tubes publicitaires célèbres, dont les MV, pour maroquinier, Vittel, Buvez éliminé, c'était lui ça? Mais oui! Génie de la pub, Gotener. Il a fait plein de pubs comme ça. Donc ça, c'était lui. Banga, il y a des fruits, il y a de l'eau. Banga, il y a des fruits, il y a de l'eau. Génie de la pub. Choco BN, il est 4h, c'est lui. Belle des Champs, c'est lui. Sopiquet, on se lève tous pour Danette. C'est lui. On se lève tous pour Danette. C'était lui. Mais oui. Malabar, c'était lui. Les pubs Malabar. Incroyable. Et ensuite, il a fait des chansons. Voilà. Le Sampa. On l'a écouté ça? Sampa, on l'a écouté tout à l'heure. Le Sampa, le Mambo du Décalco, le Yuki, voilà. Et quelqu'un me disait, me parlait d'une autre chanson tout à l'heure aussi. Voilà. Incroyable, non? Aucune ref. Ah si si, c'était un gars incroyable. Ouais. Mais non, il est pas décédé. Non non, il est pas décédé. C'est on a l'esprit d'escalier. Alors on est parti, je sais plus quoi, et voilà. Voilà, incroyable. Génération Oasis. Bah c'est tout. Non, nous ce soir on fait. Je crois que c'est parti en fait de l'émission d'hier. D'ailleurs, on va peut-être faire un petit bot pour l'émission d'hier. C'est parti du port salut, tu as raison. Voilà. Puisque ça y est, elle est en ligne sur YouTube, mesdames et messieurs. Voilà. Et alors en vrai, moi je suis pas youtubeur. Hein. Je suis pas youtubeur, mais une émission comme ça que je mets en ligne, que Mathieu met en ligne, là il y a 9h seulement et qui fait 10K vues. Pour ma chaîne YouTube, c'est pas du tout comme d'habitude, c'est très fort. Donc, on a eu l'impression de faire une belle émission hier, et je crois qu'on s'est pas trompé. Ouais. Voilà. Et donc, on va faire un petit bot. Nightbot, où es-tu, mon ami Nightbot? Parce que c'est une belle émission, et peut-être que certains ne l'ont pas vue. On va faire new timer, on va appeler ça cash, puisque c'est l'émission s'appelle question réponse cash. Donc pour revoir l'excellente réponse cash 2. Par contre, je sais plus si c'est réponse au pluriel. Voir ou revoir, c'est au singulier. Réponse cash 2. Deux. Avec bon, on peut même les inviter avec Domingo, Baguera, Enjoy Phoenix, Faux Enix, l'invité mystère, Thomas Dezer, c'était lui l'invité mystère. Certains pensaient que c'était Charles à l'oncle, mais non. Et Kevin Tran, c'est ici. Deux points collés. Hop. Quel informaticien, c'est incroyable. Pas besoin d'IA ici. Hein. Pas besoin d'IA ici, moi. Tchac. Pour revoir l'excellente émission Réponse Cage 2 avec Domingo, Baguera, Enjoy Phoenix, Thomas Dezer et Kevin Tran, c'est ici. Ah ouais, ouais. Tac. Donc ça, je vais vous faire un petit truc toutes les 10 minutes. Tac. Et je vais vous faire aussi les bruitages aussi. Tac. New commande. Tac. Point d'exclamation. Cache. Toc. 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 Et si tu fais point d'exclamation. Cache. Dans le chat. Qu'est-ce que t'as? T'as ça. Pff, quel informaticien. Bim. C'est épinglé. Voilà. Et en vrai, l'émission est cool. Parce qu'en fait, on avait fait une première réponse cash 1. Non, cash comme tu n'as pas cash. Comme moula. Il manque un accent. À réponse. Ouais, mais faut. C'est parce que je ne sais pas faire les accents aigus majuscules avec ce clavier. Je ferai à la maison. Ouais, je le ferai à la maison. Et donc, on avait fait un réponse cash 1. Alt 144. Ouais, mais je ferai à la maison. Oui, Renifleur des Peuples, c'est bon, on a compris. Tu peux arrêter de spammer. On avait fait un réponse cash 1 il y a un an, qui avait bien marché. Et là, mais on avait vachement lu les messages sur YouTube. Oui, c'est vrai que je peux copier-coller, je suis con. Je suis débile. Merci, Renifleur des Peuples, je suis débile. Je suis totalement débile. Je suis débile, en fait. Voilà. Réponse cash 2. Putain, vous êtes vraiment des gouttes. Timer, cash, je suis débile. Je suis vieux, tout simplement. Je suis débile. Excusez-moi, je suis vieux et fatigué. Et il est tard. Et donc, on avait beaucoup lu les commentaires sous le replay. Et les gens disaient, ouais, elle est cool l'émission et tout, c'est bien pour une première méca. Mais parfois les questions étaient dures quand même. Et donc, on a revisité l'émission. On a fait des questions un tout petit peu moins difficiles. Pas faciles, mais un tout petit peu moins difficiles. On a agrémenté la méca de petits jeux en plus, genre fléchettes, basket, tutti quanti, et on a invité des gens incroyables aussi, en vrai. Voilà. Et ça a fait une belle émission. Voilà. Et vraiment, j'ai été très agréablement surpris du résultat, parce que c'est pas parce que tu as de bons ingrédients que tu fais une belle recette. Voilà. Et tout s'est bien mélangé. Voilà. Et entre la qualité des questions, la qualité de la méca, la qualité de la prod, hein, les gens de la prod, avec Joe à la baguette, c'était du super boulot. Qualité de l'image, qualité de la lumière, qualité du son, la réale aussi, la réactivité au niveau de la réale, l'ambiance qu'ont mis les invités, voilà, même avec un animateur un peu vu, un peu gaga, eh ben, ça donne un résultat incroyable. Et donc, ouais, je suis très agréablement surpris par le nombre de vues, là, déjà, sur... C'est fou. Ça fait bien plaisir. OK, c'est top. Simple, efficace. Non, mais je suis content. Mais c'est pas toujours facile de faire du simple, efficace, justement. Moi, c'est un truc... quand les gens viennent me voir pour me dire, tiens, on va faire un jeu sur Internet, sur Twitch, et ils viennent avec plein d'idées incroyables de méca et tout, et souvent, je leur dis, il faut simplifier. Faites simple, les gars. C'est une première mécanique. Personne ne connaît votre jeu. Voilà, et les mecs ils inventent 200 000 règles, 200 000 phases de jeu, et je leur dis, sur le papier ça a l'air sympa, mais vous allez perdre les gens, vous allez perdre les candidats, vous allez perdre les viewers, faites simple, efficace. Et en fait c'est dur de faire simple, efficace, c'est plus facile de faire compliqué. Et là je trouve qu'hier c'était pas mal. Ouais. Et puis les invités étaient incroyables, c'est-à-dire que Baguera, Enjoy Phoenix, Domingo, Thomas Dezer, Kevin Tran, ils ont joué le jeu à 2000%, quoi. Et la finale de fou, en plus. Ah oui, la finale, incroyable. À quand la troisième? Bah, pour plaisanter, à la fin du stream, j'ai dit... parce que c'est Caisse d'Épargne qui a été le sponsor des deux émissions. J'ai dit, bon, allez, j'espère qu'on va se retrouver pour une troisième. En général, on fait ça pour la semaine de l'éducation financière. Donc c'est une fois tous les ans. Attends, un peu, au moment où je dis ça, putain, le forceur, quoi. Dites donc, Caisse d'Épargne, il va falloir la refaire, hein. Voilà, un gros forceur. Mais ouais, j'ai bien aimé l'émission. Est-ce que t'as vu le plan de ta tête sur la rediff? Ouais, j'ai vu, ouais. Salut, Malakwart. Bienvenue. Si le rapport, mais c'est de la connerie, ça, n'écoutez pas les réseaux sociaux et les gens qui essaient de vous infumer avec des fake news. El Giganto, si le rapport de la commission d'enquête n'est pas voté, sais-tu également légalement si tu seras contraint de supprimer tous tes replays des streams de React à la même commission? Mais oublie ça, c'est du pipeau. Hein. 100% le rapport va être voté, de toute façon ils n'ont pas le choix. Vous embêtez pas avec ça. De toute façon, la philosophie sur ce genre de truc, c'est on stressera quand le problème apparaîtra. Ne commencez pas à stresser ou me demander de stresser pour un truc qui n'existe pas. Ouais. Moi, les problèmes me font stresser quand les problèmes sont là. Mais alors, il pourrait y avoir un problème. Alors ça, c'est le dernier truc qui me fait stresser, quoi. Et faites ça dans votre vie. Hein. Vous allez vous enlever plein de nœuds au ventre. Ça, c'est l'avantage de l'âge. À un moment, il y a une forme de sagesse ou de décrépitude qui s'installe. Et franchement, moi, je ne stresse jamais pour un truc qui ne s'est pas encore produit. Jamais. Jamais. Quand un problème arrive, je m'en occupe, je le traite, j'appelle des copains, on passe à 2h du mat, toc toc toc, c'est nous, on règle le truc. Mais pas avant qu'il soit produit, ça sert à rien. Voilà. Ça sert à rien du tout. Le jour où vous aurez compris ça, franchement, vous allez vous simplifier la vie. Voilà. Et en plus, chaque problème a sa solution. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Non mais en vrai, hein. Donc ça, par exemple, c'est vraiment pas un problème. Surtout que tout ça, c'est un peu du pipeau. Donc, contextualisons, parce qu'on aime contextualiser ici. On s'est régalé des auditions de la commission, de l'Assemblée nationale, sur l'indépendance, la neutralité, le financement de l'audiovisuel public. Voilà. On s'est régalé aussi de la mauvaise foi et des mensonges du rapporteur. Bon, c'est pas très original ce que je dis, ça a été dénoncé par un nombre incalculable de gens. Une petite plainte en justice qui est partie sur le sujet. Donc, bon, bah, hélas, cet arc est terminé. Hein. Hélas, parce que il y avait un petit côté Dallas, un petit côté série. Je sais que beaucoup de gens de cette communauté ont lâché leur abonnement Netflix, Disney+, Amazon Prime, vu la qualité des épisodes qui nous a été proposés. C'était, vous voyez, incroyable. Comme quoi, hein? Comme quoi, on dit oui, les émissions du service public, c'est pas fou. Bah là, on avait une émission de service public. Hein? C'était une émission enregistrée à l'Assemblée nationale, avec des gens qui étaient payés par l'argent public du contribuable, députés et puis tous les gens qui bossaient autour, là. Donc voilà, donc c'est un certain coût. Et donc c'était typiquement une émission de service public, hein. Eh ben c'était une sacrée qualité, hein. On était en haleine, comme quoi. Et donc, là, c'est terminé. Et est-ce qu'il y aura une saison 2? Je ne sais pas. Et c'est à cette occasion, on m'a dit, ah, mais Samuel, il y a aussi le Sénat qui fait toute une série d'auditions maintenant. Donc, on change de chambre. Hein, c'est plus l'Assemblée, c'est le Sénat. Des auditions sur les médias en ligne. Et vous m'avez dit, mais notamment Jean Massier qui est passé. Alors, moi, vous savez que j'aime beaucoup le travail de Jean. Et puis, j'ai appris que dans cette audition-là, il y avait eu Jean Massier, mais aussi Hugo Décrypte. Et aussi Gaspard G, voilà, trois créateurs de contenu respectés et respectables. Donc je me suis dit, bah, leur regard sur la création, notamment de formats d'infos sur Internet, c'est vraiment intéressant, quoi. Voilà. Alors vous m'avez tous prévenu, alors c'est, bon Samuel, ne t'attends pas à autant de spectacles, c'est beaucoup moins de mauvaise foi, c'est beaucoup plus de qualité et tout. Bah, ça va nous changer. Et attendez, c'est pas tout. Un truc intéressant, vous allez voir. Si je tape... Regardez. Là, j'ai eu une surprise, parce que tout à l'heure, je suis allé voir. Voilà. Et j'ai vu les autres épisodes. Attends, comment je les ai trouvés tout à l'heure, les autres épisodes? Voilà. Ah, c'est pas mal ça. Ah, il y en a d'autres. Ah, il y a d'autres commissions en ce moment. Attendez. Mais alors, attends, si je reste sur ce thème-là, où est-ce qu'elle est? Là, non. Mais là, non. Ah, tout à l'heure, je les avais toutes. Attendez, bougez pas. Oh, Noctali, merci pour le raid. J'arrive. Attends, tout à l'heure, je les avais, et puis j'ai eu un bug de Google. Papa, où sont les autres? Où sont les autres?
Mission d'information sur...
Où sont les autres épisodes? Le média en ligne, là. Alors, il y a ceux-là. Bon, on peut... Voilà. Ouais, très bien. Et alors... Ah, c'était dans le sommaire à côté, ouais. Et alors, j'ai vu qu'il y avait d'autres épisodes qui ont l'air passionnants aussi. Le 15 avril, là, aujourd'hui, Frontières. Ils ont auditionné Frontières. T'as envie de le voir. Bon, je connais pas tellement Frontières, moi, c'est pas un truc que je consomme. Mais t'as envie de le voir. Hein. Alors, Frontières, je sais même pas comment vous le définir, moi. Frontières. Ah non, on va pas cliquer, hein. Frontières Médias. C'est quoi Frontières? Je t'avoue que je ne le consomme pas, je ne le connais que de réputation. Frontières, anciennement Livre Noir. Ah, c'était Livre Noir avant. Okay. Est un média d'extrême droite français, fondé par machin, machin et machin. Initialement engagé exclusivement sur les réseaux sociaux, le média se développe afin de se décliner en version papier à partir de 2023, puis vidéo et même radiophonique en 2025. Frontières affiche une orientation conservatrice et identitaire. Peu après sa fondation, en 2022, le média est décrit comme un soutien officieux d'Éric Zemmour, et notamment critiqué pour son traitement de l'invasion russe en Ukraine. J'imagine à peu près de quel côté ils étaient. Ces méthodes d'investigation sont régulièrement remises en question en pointant sa déontologie journalistique, tandis que ses reportages sont décrits comme sensationnalistes. Voilà. Ah ouais, il y a une sacrée page wiki. Hein. Livre Noir fait de la question de l'immigration sa priorité éditoriale. Ah, ils ont leur émission sur CNews maintenant? Non! L'un des fondateurs explique souhaiter que son média devienne une référence sur l'immigration. On veut que ce soit récurrent. Jamais quelqu'un n'a fait un travail aussi complet que nous là-dessus. Comme le dit Julien de Marseille, être obsédé par l'immigration au point de s'appeler Frontières, c'est grave. Oui, j'avoue que déjà, le titre. Ça annonce un certain bien dans leur sujet. Non ! Non, penses-tu ? La chaîne parlementaire, LCP, décrit la chaîne comme le fer de lance de la nouvelle presse d'extrême droite, fondée par des proches de Marion Maréchal et qui donne la parole à tous ceux qui partagent la même obsession de l'immigration. J'ai cru qu'il donnait la parole à tout le monde. J'ai eu peur. Non, à tout le monde, mais uniquement à tout le monde, à condition de partager la même obsession de l'immigration. « Waouh, en 2025, Frontier dresse une liste de 60 avocats considérés comme coupables de l'invasion migratoire. Et diffusent sur X leurs photos déclenchant, ils ont, waouh, un mouvement de harcèlement à leur encontre, ainsi que des menaces de mort. Tout va bien. À partir de 2023, le média présente une cartographie de l'extrême gauche, interactive avec une. Tu peux cliquer, il y a des liens cliquables. Il y a des liens cliquables. Une cartographie de l'extrême gauche interactive avec une classification de 500 entités avec des personnalités, des médias, associations et syndicats. Ouais, j'ai du fichage, ouais. Ah oui, on a une petite ambiance. Oui. Petite ambiance 1940, oui. L'humanité dénonce cette liste en expliquant qu'elle n'a pas seulement pour objectif de mieux connaître des personnalités de gauche en les identifiant distinctement, mais bien une volonté de placer une cible sur leur tête. Waouh. Là, vous avez des personnalités liées à tout ça, des conditions de travail. Ok, petite condamnation là. Ok, voilà, vos frontières. Je ne me suis jamais penché sur ce média que je n'ai jamais consommé. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que la surprise, c'est ça, c'est qu'ils ont auditionné quelqu'un de Frontières aujourd'hui. Donc là, ce soir, on fait Jean Massier qui est là, qui est un peu plus bas, mais ce serait intéressant. Et donc, toujours pour cette commission du Sénat sur les médias en ligne, on a médias en ligne et fausses informations. T'as envie de regarder ça. Médias en ligne, Blast, Basta et Street Press. T'as envie de regarder ça. Gaspard G, Jean Massier, Hugo Décrypte, t'as envie. T'as tellement envie qu'on va le faire ce soir. Disclose Mediapart off investigation, t'as envie aussi. C'est tous les sujets qui nous intéressent le matin, ça. Comment se fabrique l'information? Comment identifier un média comme un média de qualité? Quels sont les processus de fabrication de l'info? Je découvre, est-ce que c'est toujours à l'oncle qui rapporte ou pas? Ah bah non, bah non. Non, là c'est le Sénat. Non, non, il est député à l'oncle. Ne me dis pas que tu confonds l'Assemblée nationale et le Sénat. Hearded. Hein? Mon Hearded quand même. Quand même. Excuse-moi, j'avais un truc. Ça, je connais pas. Audition de Brut, Loop Seeder et Combini. Très intéressant. Et en plus, Mathieu, qui gère la chaîne YouTube, t'as vu, Mathieu, les vues sur le Réponse Cache 2? Incroyable. Donc, il y en a d'autres. Ça commence avec le SNJ, je crois. Voilà, le SNJ, qui est le Syndicat national des journalistes. C'est pas mal, hein? Ils t'ont mis dans la cartographie. Bon, je suis pas militant, moi. Je suis pas militant, moi. Alors, à l'extrême droite, des voix s'élèvent pour dire que je suis militant, mais le problème de certaines personnalités d'extrême droite, c'est que si tu n'es pas d'extrême droite, tu es militant. Alors, attends, ben, désolé, j'ai beaucoup de qualités, mais je ne peux pas toutes les avoir. On ne peut pas être tous d'extrême droite. Il y a d'autres sensibilités politiques en France, quoi. Donc, le problème de certaines de ces personnalités, c'est que si tu n'es pas d'extrême droite, déjà, tu es un gauchiste. Si tu n'es pas d'extrême droite, tu es un gauchiste. Alors, gaucher associé. Voilà. Et puis tu es militant forcément. Mais pas militant du bon côté, quoi. La blague, c'est quand même que la seule personne qui met face à face, les yeux dans les yeux, qualifiée de militant, c'est quand même un député d'extrême droite. Faut pas manquer d'air quand même. Putain, le mec, putain. Il y a de l'oxygène là-haut, aux endroits où vous êtes, là, il y a encore de l'oxygène ou quoi? Waouh, ça c'était fort de café ça. Voilà. Donc on fait ça ce soir. On va écouter Jean Massier, Hugo Décrypte et Gaspard G. Ah c'est bien ça. Samuel, il y a aussi une commission sur la souffrance au travail au Sénat. Pour plus tard, c'est bien ça. Pourquoi il y a autant d'arrêts maladie et tout? Bien ça. C'est pas mal. C'est hyper intéressant ce travail des commissions. Pourquoi? Parce que on voit notamment des experts des sujets qui viennent s'exprimer. Et ce soir, c'est ce qu'on fait. Alors, Sénat français, on y va. On y go? Sais-tu quel parti politique est à l'initiative de cette commission? Très bonne question. On va regarder tout de suite. Comment s'appelle cette commission? Alors, elle s'appelle, c'est la commission du Sénat sur les médias en ligne. On va voir sur, si je trouve des infos. Tu regardes sur YouTube ou sur le site du Sénat? Écoute, je suis allé voir les deux et bizarrement, j'ai trouvé que la qualité d'image était meilleure sur le site du Sénat. Commission Sénat sur les médias en ligne. Allez chercher votre popcorn, bande de beaux gosses. Alors, est-ce qu'on a des articles? On veut nous interdire. Le fondateur de Frontières défend son Sénat, son média devant le Sénat. Ok. Ok, mais Sénat. Les zones grises de l'information. Oh, c'est hyper intéressant. Qui est à l'origine de ce de cette commission? C'est direct Sénat, là, c'est pas la source. C'est très bien, mais c'est pas ça qu'on veut. Public Sénat. La presse s'est pas tellement penchée sur ces auditions. Hein. C'est dommage. Ah, ils auraient dû mettre à l'oncle. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça ou pas? Non, c'est autre chose encore, ça. Encore autre chose. Ok. Donc, mais peut-être qu'on trouvera l'info au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Alors, aujourd'hui, on écoute celle-ci.
Mission d'affaires.
En termes de qualité, c'est pas mal. Et vous allez voir, si on va voir sur YouTube, Sénat. J'ai trouvé que la...
Bon, mes premiers sur les faits.
Regardez la qualité. Je sais pas si vous voyez une espèce de petit flou, un petit glow. Voilà. Et si vous et regardez où est-ce qu'elle est. Et là, si vous regardez, si je mets la même.
Jean-Massier.
Regardez. Ouais.
Van Bern.
Ouais. Vous trouvez pas que c'est plus net? Ah, c'est pas en HD sur YouTube. Voilà. Eh bien, c'est parti. Ok. Donc je vous mets ça. Je vais essayer de vous faire un son de qualité.
Un numérique.
C'est parti. C'est parti, son à fond les ballons, audio du bureau, on va voir si c'est assez fort. Et en termes de qualité, affichage du temps, ok, tac, tac, je prends coup. C'est bon, ok, let's go, on essaye. Voilà.
Mission. Les zones grises de l'information en accueillant trois acteurs devenus incontournables de cette...
Le sommaire est caché, bien sûr, tu as raison. Voilà. Là, c'est mieux. Voilà. Et puis, on va même faire... Tu sais c'est quoi? On va faire un truc plus joli que ça. Regarde. Et je vais vous booster le son aussi. Voilà. Mieux, là. Ok, et le son, je vais te le montrer. Le contexte, bah, le contexte, tu vas l'avoir là. Il est en train de... faut écouter le monsieur. Voilà. Alors le, et je vais te booster le son de tout ça, moi. Audio du bureau, propriété audio avancée. Hop. Tac 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 tac. Audio du bureau. Je vais te mettre 3 dB en plus là. Allez, un petit 3, ça devrait suffire. Let's go. Fermé, c'est parti.
Espace de l'information à l'ère numérique. Hugo Travers, fondateur de la chaîne d'actualité Hugo Décrypte, une des personnes qui vous a précédé dans cette salle, vous a, en parlant de votre travail, a parlé de TF1 des jeunes. Alors, je ne sais pas sous quelle forme il faut le prendre, mais voilà. Qui vous avez, on le sait, plusieurs millions d'abonnés sur YouTube et sur Instagram. Et vous êtes devenu un canal majeur.
TF1 des jeunes, je ne sais pas si. Comment il faut le prendre ?
Majeur d'accès à l'information pour les jeunes générations. Gaspard Guémont-Pré, également fondateur d'une chaîne de décryptage de l'information, présente sur les mêmes plateformes et vous contribuez également à renouveler les formats de traitement de l'actualité. Et enfin, Jean Massier. créateur d'une chaîne d'analyse de l'actualité politique qui a la particularité de proposer quotidiennement des émissions interactives en direct sur la plateforme Twitch. Votre présence compte.
Déjà, quelqu'un qui parle de Twitch et pas d'un YouTube où les gens écrivent des mails en interaction. Ça commence bien. Qui est le président de cette commission? C'est un Laurent Lafon, c'est ça? Qui est ce monsieur qui parle? Toujours se demander qui parle. Donc c'est un sénateur, ça c'est sûr. Le voilà, sénateur du Val-de-Marne, membre du groupe Union Centriste. Hein? All right. Sénateur du Val-de-Marne. Et il a été maire de Vincennes. Tacodac. Ok. Depuis 2020, il préside la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport. Ok, très bien. Alors, on va se remettre bien sur le... Attends, je vais fermer tout ce dont on n'a pas besoin, là. Hop. 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 On y est.
Conjointe tous les trois, illustre la transformation du paysage de l'information qui s'est profondément diversifié depuis une dizaine d'années. Au siècle dernier, les vecteurs d'information ont évolué de la presse quotidienne aux chaînes d'actualité, en passant par des rendez-vous collectifs tels que le journal de 20 heures. Ce paysage relativement hiérarchisé distinguait clairement producteurs et consommateurs d'informations. A contrario, aujourd'hui, l'écosystème de l'information paraît beaucoup plus fragmenté.
Le constat est OK. Hein. Un paysage de l'info fragmenté, beaucoup plus d'acteurs, beaucoup plus d'émetteurs de news.
Marqué par la multiplication des auteurs de contenu, mais aussi des canaux de diffusion. Chacun peut maintenant produire ses propres contenus d'information et les diffuser sur les plateformes de vidéo et les réseaux sociaux. Cela suppose néanmoins d'accepter de dépendre d'algorithmes dont les paramètres sont opaques, mais déterminants évidemment pour assurer une visibilité à vos travaux. Ces mêmes algorithmes tendent à enfermer leurs utilisateurs dans des bulles informationnelles où le débat contradictoire devient bien souvent...
Mais très bien ce monsieur.
...un vœu pieux. La multiplication des sources ne garantit ainsi pas un pluralisme accru. Votre expérience est particulièrement précieuse pour nous, aider à appréhender ces transformations. Il s'agit de comprendre à la fois comment vous fonctionnez et quelle est votre analyse des mutations du paysage informationnel. Nous vous avons transmis un questionnaire qui s'articule autour de...
Attends, ils ont reçu le questionnaire avant ? Ah non, parce que moi le questionnaire... Attends, le questionnaire pour préparer l'audition, ils l'ont reçu avant ? Ah ouais, parce que moi, le questionnaire à l'Assemblée, je l'ai reçu aussi. Mais je l'ai reçu après, moi, le questionnaire de préparation de mon audition. Je l'ai reçu. Mais je l'ai reçu après, moi. On pouvait le recevoir avant ? Ah ouais. Ah, c'est cool.
De trois grandes orientations. En premier lieu, comment assurez-vous votre indépendance économique et éditorial, les deux étant parfois liés. Notre interrogation porte plus largement...
Pause, il y a Kine22 qui m'a mis un lien qui présente le thème de cette commission. Regarde tout de suite, merci à toi. Les zones grises de l'information. La commission de la culture, de l'éducation et de la communication du sport a engagé une mission d'information sur la régulation de l'information dans l'espace numérique. C'est le nom officiel, j'ai l'impression. Dont les rapporteurs sont Agnès Evren, Laurent Lafon, qu'on vient d'entendre, et Sylvie Robert. Pour mener cette mission d'information, le Sénat a conféré à la commission les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête. On va voir, je crois qu'ils jurent aussi, hein, c'est la même chose comme à l'Assemblée. Pourquoi ce contrôle ? Alors, mission d'information sur la régulation de l'information dans l'espace numérique. C'est intéressant déjà. Parce que là, on voyait quand même un truc sur les médias en ligne tout à l'heure. C'est pas tout à fait la même chose, hein. Il y a une histoire de volonté, peut-être, en tout cas, de s'informer sur faut-il une régulation et quelle régulation, quoi. L'émergence de nouveaux acteurs tels que les grandes plateformes, les médias exclusivement en ligne, les influenceurs, ainsi que le développement rapide des outils d'IA ont bouleversé le paysage de l'information. La frontière entre information, commentaires, divertissement, communication s'estompe. C'est vraiment intéressant. Cette situation qui peut fragiliser la lisibilité et la crédibilité de l'information est de nature à faciliter des manipulations d'origine interne ou étrangère, au risque de porter atteinte au processus démocratique. C'est très très juste. La régulation de ces nouvelles dimensions du paysage informationnel est récente, caractérisée par une diversité de cadres juridiques. Elle se distingue des règles unifiées appliquées par l'ARCOM au secteur audiovisuel et s'inscrit dans le cadre de la législation européenne encadrant l'activité des plateformes numériques et la liberté des médias. Dans ce contexte, la mission entend deux points où, retour chariot, 1. Identifier et mesurer les risques et les menaces qui pèsent sur l'espace informationnel français. Je trouve ça passionnant. Évaluer la robustesse du dispositif institutionnel et législatif destiné à protéger cet espace informationnel français, voilà, notamment de désinformation d'intérieur du pays ou venant de l'extérieur. Proposer des pistes d'évolution pour mieux réguler l'information dans l'espace numérique et préserver l'intégralité du débat public. Et moi, j'ajoute protéger peut-être les citoyens aussi de la désinformation. Eh bien, c'est très intéressant. Donc, c'est... Voilà. Donc c'est intéressant, ce n'est pas qu'une commission sur les médias d'information en ligne, hein, mais une mission d'information sur l'éventuelle régulation de l'information dans l'espace numérique. Ouais. Attention, ça ne parle pas de label, hein. Labelliser l'info, c'est pas ça qu'il disait.
Sur la qualification même de votre activité, êtes-vous journaliste, créateur de contenu ou encore influenceur ? La frontière entre l'information, l'opinion et le divertissement paraît de plus en plus ténue. C'est ce que nous avons voulu exprimer à travers la notion de zone grise de l'information, qui elle-même, nous le reconnaissions, la notion est elle-même un peu grise. L'idée est justement d'arriver à distinguer ce qui relève du travail de l'information, de ce qui est du commentaire ou de l'opinion. Votre point de vue est d'autant plus important que vous vous adressez à des publics jeunes auprès desquels vous exercez de façon assumée une fonction pédagogique. En deuxième lieu, quelle est votre vision de l'écosystème numérique ? Nous sommes inquiets des possibles manœuvres de déstabilisation, de manipulation ou d'amplification d'origine.
Mais c'est quoi ce rapporteur qui a bossé son sujet ? Mais c'est quoi ce rapporteur qui a travaillé en fait ? Qui manifestement comprend les thématiques sous-jacentes. C'est le président de la commission ? C'est pas le rapporteur ? Ah bah c'est pour ça alors. Non mais c'est... Moi du coup, comme on avait regardé qu'une seule commission, nous ben, on pensait que c'était un peu le what the fuck quoi. Tu dis ce que tu veux, au feeling, tu viens avec 10 questions et tu fais 6 mois d'audition, enfin, tu vois. Nous, on pensait, à la lumière de ce qu'on avait entendu, que les commissions parlementaires, c'était... Voilà, pas du tout. Là, il y a un monsieur, manifestement, qui comprend ce qu'il dit, qui comprend de quoi il parle et qui, manifestement, a travaillé. Je suis choc-barre.
Étrangère, mais aussi domestique, dans une période électorale qui s'annonce. Ces phénomènes peuvent être aggravés par les logiques propres aux plateformes, notamment en période électorale, comme je le disais, alors même que les médias audiovisuels traditionnels sont soumis à des règles strictes en matière de pluralisme et de temps de parole. Enfin, troisième lieu, notre questionnement porte sur les mécanismes de régulation établis en fonction des catégories anciennes, probablement dépassé, notamment la distinction entre le régime de la presse et celui des médias audiovisuels. Cela pose la question d'éventuelles asymétries de traitement. Faut-il adapter cette régulation au nouveau paysage de l'information ? C'est un peu pour répondre à toutes ces questions que nous avons, au niveau de la commission, lancé une mission d'information avec les statuts des commissions d'enquête. Et nous sommes trois co-rapporteurs, Sylvie Robert, Agnès Sévren et moi-même. Et puis, bien sûr, les sénateurs et sénatrices qui sont là pourront également intervenir. Ce que je vous propose, c'est que de vous laisser la parole pour un propos liminaire. Et puis après, on échange très librement, non sans avoir... non sans avoir rappelé que nous sommes en
donc propos liminaire. Ah, il est co-rapporteur et aujourd'hui président de commission. Merci Sugar. Donc propos liminaire, ça va être très intéressant. On va pouvoir entendre Jean Massier, notamment Gaspard G, Hugo Décrypte sur un propos liminaire sur ce sujet vachement intéressant. bluffant quelqu'un qui travaille. C'est vrai que là, ça choque, on n'est pas habitué.
Doté des pouvoirs de commission d'enquête, et donc je vais vous inviter à prêter serment, mais avant cela, je dois vous dire que tout mensonge ou faux témoignage, enfin tout faux témoignage, est passible des peines prévues aux articles 434-13, 14 et 15 du Code pénal. Je vais donc vous inviter à prêter serment en disant toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ».
Moi aussi.
Gaspard Gamanpré, Jean Massier et Hugo Travers, merci. Et je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt en relation avec l'objet de notre mission d'information. Bien sûr, s'il y en a, est-ce qu'il y a des liens d'intérêt de... Oui, monsieur Massier.
Merci, monsieur le Président. Je dois être un des seuls créateurs de contenu qui a un lien d'intérêt avec le Sénat, puisque j'ai été créateur et producteur d'une émission de Public Sénat pendant 4 ans, pendant laquelle j'interviewais chaque semaine un sénateur ou une sénatrice. C'était
la
l'époque
classe.
Où il y avait plus de sénateurs que de députés sur Twitch.
La classe.
Voilà, et je vous rappelle également que nous sommes enregistrés sur Public Sénat, que l'audition est enregistrée sur Public Sénat. Et donc je vous propose un propos préliminaire, et puis après on échangera très librement. Je ne sais pas qui commence.
Monsieur le Président, mesdames les rapporteurs, mesdames...
C'est premier degré, je suis hyper intéressé d'entendre ce que vont dire nos trois créateurs de contenu d'info. Il y en a un que je connais un peu mieux que les autres. Hugo, on s'est croisé quelques fois. Gaspard G aussi, mais on n'a jamais eu l'occasion de travailler ensemble. Et je sais que leur travail est de qualité, puisque régulièrement, vous m'en parlez. Mais j'ai hâte d'entendre. Je remercie Chalala, juge Eddie Adam, Master Louko, Crécré Kangaroo, Kiné 22, pour les soutiens. Et c'est parti. Non, c'est pas parti pour les préliminaires, c'est parti pour le propos liminaire. Merci d'un don d'organe. Rien à voir.
Mesdames, messieurs les sénateurs, cher Hugo, cher Jean, je m'appelle Gaspard G, donc j'ai 28 ans, je suis créateur de contenu, réalisateur et producteur. Ma chaîne YouTube rassemble 1 500 000 abonnés, issus de toute la francophonie, de tous les milieux, de toutes les obédiences politiques, majoritairement âgés de 18 à 40 ans.
Merci Célix.
J'y produis des grands formats vidéo sur l'actualité, sur la société, sur la politique, des documentaires, des portraits, des reportages, des enquêtes et des interviews. Je suis également président exécutif et actionnaire majoritaire de l'agence Intello, qui représente 25 créateurs autour du savoir et de l'information au sens large, et qui produit des contenus pour des annonceurs et des diffuseurs. Je suis enfin vice-président de l'UMIC, le syndicat professionnel qui représente les 300 000 créateurs de contenu en France, car oui, la créateur économie crée de l'emploi dans notre pays. Fin 2024, j'étais aussi matinalier sur France Inter et je travaille actuellement avec TF1 sur une série d'entretiens politiques dans le cadre de la présidentielle 2027.
Waouh !
Je suis un gamin d'Internet, j'ai grandi dans le nord de la France. J'ai toujours voulu travailler dans les médias, mais on m'a toujours dit « on connaît personne ». Alors, à 10 ans, j'ai créé ma chaîne YouTube, comme beaucoup d'autres enfants à l'époque, participant sans le savoir à l'émergence d'une contre-culture médiatique. À 16 ans...
Non mais c'est génial ! C'est génial !
100 000 personnes suivaient mes petites vidéos.
Combien ?
Après mes études à l'étranger, je rentre en France en...
Ah, c'est pas YouTube. Ah, je suis pas sur YouTube.
Il va beaucoup d'autres. Je suis un gamin d'Internet, j'ai grandi dans le nord de la France. J'ai toujours voulu travailler dans les médias, mais on m'a toujours dit « on connaît personne ». Alors, à 10 ans, j'ai créé ma chaîne YouTube, comme beaucoup d'autres enfants à l'époque, participant sans le savoir à l'émergence d'une contre-culture médiatique. À 16 ans, 100 000 personnes suivaient mes petites vidéos. Après mes études à l'étranger, je rentre en France en 2020 et je constate un angle mort. Les agences d'influenceurs couvrent massivement les créateurs de contenus de divertissement et de lifestyle, mais délaissent les vulgarisateurs et les passeurs d'informations trop souvent précaires. C'est pour ça qu'en 2021, je crée cette agence Intello. En effet, si les plateformes permettent le placement de publicités automatiques avant les vidéos, ces revenus sont souvent insuffisants pour pleinement financer notre contenu. Les créateurs, pour beaucoup, ont ainsi recours à des segments de pub dédiés qu'ils incarnent au sein de leurs vidéos. 5 ans plus tard, Intello est la première agence française sur ce segment, une régie publicitaire donc pour 25 créateurs de contenu autour du savoir, dont les jeunes youtubeurs Claire Chazal et Stéphane Bern. Intello permet ainsi de financer des milliers de contenus grâce à une centaine d'annonceurs par an et 12 salariés. Ma chaîne, quant à elle, est portée par une structure juridique distincte, et c'est très important, la société de production Gasparger, dont je suis l'unique actionnaire. Cette séparation est fondamentale car elle garantit mon indépendance éditoriale avec une coupure nette entre l'activité publicitaire et l'activité éditoriale, sans aucune ambiguïté jamais, ni pour notre audience, ni pour nos journalistes. La boîte de prod Gasparger emploie 9 salariés. Notre ambition est simple, donner des grandes clés de lecture à nos abonnés pour mieux comprendre notre...
Attends, je veux réécouter ça. C'est intéressant, mais je voudrais être sûr de bien comprendre.
Mon Gasparger, dont je suis l'unique actionnaire, est un annonceur de contenu autour du savoir, dont les jeunes youtubeurs Claire Chazal et Stéphane Bern. Intello permet ainsi de financer des milliers de contenus grâce à une centaine d'annonceurs par an et 12 salariés.
Donc, centaine d'annonceurs par an, ça c'est la boîte, d'accord, Intello, ok. Avec notamment Chazal, tout ça, ok.
Ma chaîne, quant à elle, est portée par une structure...
Donc la chaîne de Gasparger sur YouTube, maintenant.
...structure juridique distincte, et c'est très important, la société de production Gasparger, dont je suis l'unique actionnaire.
Okay.
Cette séparation est fondamentale, car elle garantit mon indépendance éditoriale avec une coupure nette entre l'activité publicitaire et l'activité éditoriale, sans...
Ça veut dire quoi? Il veut dire que la régie pub, elle est dans l'autre boîte, c'est ça? Il a deux boîtes, il a sa boîte pour sa chaîne YouTube, et il a une autre boîte où il y a la régie pub. Et donc ça veut dire que la pub sur Gasparger, elle est décidée dans l'autre boîte, Intello. Mais qui dirige Intello? Mais c'est qui le patron d'Intello? C'est lui. Donc, la séparation, du coup... Oui, mais pour pas mélanger, oui, mais si la régie pub n'influence pas le contenu éditorial, oui, si c'est pas lui qui a la tête de la régie pub, mais si c'est lui qui a la tête d'Intello, de l'autre boîte, ça marche pas. C'est pour ça que je me suis arrêté. Par exemple, je fais une pause. Dans une grosse chaîne, par exemple, il y a un patron de la rédaction, des directeurs de l'info, et puis il y a la régie pub qui est dirigée par quelqu'un d'autre. Et c'est deux personnes différentes. Donc là, il y a une séparation. Mais là, si vous me dites que le patron d'Intello, c'est lui, et le patron de la chaîne Gasparger, c'est lui, il n'y a pas de séparation. C'est pour ça que je me suis permis d'arrêter. La pub sur sa chaîne est indépendante, mais ça veut rien dire, ça. Juste, j'essaie de comprendre. Il ne place pas de pub Intello dans ses prods de chaîne YouTube. Attends, sur sa chaîne YouTube perso, Gasparger, il n'y a pas de pub. Si on va sur la chaîne YouTube de Gasparger, il ne met pas de pub. C'est ça? C'est ce que certains veulent dire? Si, d'accord. Et du coup, donc il n'y a pas de séparation alors. On va peut-être comprendre plus tard, mais là je comprends pas pour l'instant. Là il y a un petit.
Aucune ambiguïté jamais, ni pour notre audience, ni pour nos journalistes.
Okay.
La boîte de prod Gasparger emploie 9 salariés. Notre ambition est simple, donner des grandes clés de lecture à nos abonnés pour mieux comprendre notre monde et notre époque.
Okay.
Nous exerçons un journalisme lent, pédagogique, exigeant et accessible. Dernier sur l'info, comme ça. Je dis souvent, mais premier sur les faits. Nos formats durent entre 25 et 100.
Dernier sur l'info, premier sur... Ça, c'est bien, ça. Prendre le temps de l'info, pas se précipiter, c'est la base.
50 minutes, nous revendiquons une objectivité de méthode. Toutes nos sources sont toujours disponibles en description, croisant presse de gauche, de droite, du centre, public, privé, française, internationale. Pour l'écrasante majorité de nos vidéos, nous faisons aussi appel à des experts rémunérés, des chercheurs et des universitaires qui viennent garantir la précision des faits. Les segments de pub que j'incarne, essentiels à notre financement, sont clairement identifiés. Une minute en début de vidéo, tournée dans un décor distinct avec la mention « publicité » placardée à l'écran. Cette rigueur fonde notre contrat de confiance avec notre audience. J'ai ainsi pu mener des enquêtes sur le scandale d'État de la chlordécone aux Antilles, les dérives des deepfakes ou le business d'OnlyFans. J'ai pu couvrir des zones de guerre en Ukraine ou en Palestine, interviewer les présidents Macron et Hollande, ainsi que 6 des 7 principales têtes de liste aux européennes en 2024, sauf Jordan Bardella, qui n'a pas répondu présent, mais qui a quand même reçu une invitation. J'ai toujours fait le choix d'inviter l'ensemble des candidats l'ensemble des candidats en période électorale, parce que c'est l'idée que je me fais de la démocratie. Nos abonnés votent autant à droite qu'à gauche, je crois. Dans mes vidéos, je parle autant des dérives autoritaires de Jean-Luc Mélenchon, de la proximité d'Emmanuel Macron avec certains milliardaires, que des détournements de fonds européens du parti de Marine Le Pen. La seule chose qui m'importe, c'est d'être le passeur d'une information la plus juste possible. Le reste... En tant que vice-président de l'UMIC, j'ai aussi œuvré à la revalorisation du fonds CNC Talent, passé de 1,8 à 3 millions d'euros cette année. C'est encore très insuffisant. Pour info, sur les 43 millions d'euros de taxes versées par Google et Meta, seulement 3 millions d'euros sont refléchés vers les créateurs de contenu par le CNC. Le reste va au cinéma. Mais réjouissons-nous, car pour la plupart, nos néo-médias ont des modèles sains, indépendants de subventions, ne sont pas la propriété de milliardaires et intéressent les moins de 35 ans à l'actualité, dans un moment de forte concentration des médias, de désintérêt des jeunes pour la télévision et la presse traditionnelle. C'est plutôt une bonne nouvelle, je crois. Alors j'espère sincèrement que nous aborderons notre cas dans cette commission, nous, les jeunes pousses de ce paysage informationnel, sous l'angle de l'accompagnement plutôt que de la contrainte, pour que cette révolution médiatique qui se fait sous nos yeux se fasse dans l'intérêt des Français de moins de 35 ans qui nous plébiscitent de plus en plus au détriment des médias traditionnels. Merci pour votre attention.
C'est brillant, c'est clair, c'est riche, il y a plein d'infos. J'ai envie de t'arrêter toutes les phrases, tellement il y a des choses intéressantes sur la ligne éditoriale, sur le fait qu'il donne la parole à tout le monde. Notamment, il a parlé aussi du financement des créateurs de contenu sur YouTube en disant qu'en gros il y a beaucoup d'argent qui est taxé sur YouTube mais qui est pas assez fléché vers les créateurs de contenu. Alors évidemment, ça a mal vieilli avec le CNC créateur. Effectivement, cette commission a eu lieu avant l'histoire du CNC créateur. C'est bravo monsieur Gasparger, c'est impressionnant.
Jean Massier.
Merci monsieur le président, vous m'entendez bien? Mesdames les rapporteurs, mesdames et messieurs les sénateurs et sénatrices, chers confrères, pour ma part, je suis streamer politique depuis 11 ans. Ça veut dire que je diffuse des émissions en direct sur la plateforme Twitch, où je fais de la pédagogie et de la vulgarisation d'analyse d'actualité politique et parlementaire.
Ça fait bizarre de voir Jean en dehors du contexte du stream, j'adore.
J'essaye de faire un travail d'éducation populaire, utile au débat public et démocratique, à destination d'un public jeune et surtout d'un public éloigné du jargon politique. Mon but, c'est de permettre au plus grand nombre de s'y retrouver dans une actualité politique souvent inaccessible. Je ne me considère pas comme un journaliste parce que je n'en ai pas besoin.
Jean, c'est une des premières questions que je lui ai posées quand il est venu streamer parfois à la maison. C'est comment je te présente, tu fais de l'information, est-ce que tu es journaliste? Il a toujours été embêté avec ça, il veut pas qu'on le présente comme un journaliste. Il est en train d'expliquer pourquoi, donc si vous ne le savez pas...
Actualité politique souvent inaccessible. Je ne me considère pas comme un journaliste parce que je n'en ai pas besoin. On ne m'a jamais demandé si j'étais journaliste, à part des journalistes curieux.
Voilà, c'est vraiment une question de journaliste ça. C'est une question que moi je lui ai posée par exemple.
Personne ne m'a vraiment posé la question, ni mon public, ni les personnes politiques que j'ai interviewées.
Si, moi je lui ai demandé. Et il m'a dit ça, il m'a dit j'ai pas besoin qu'on me qualifie de journaliste, je fais de l'info. Je crois qu'il est un peu embêté avec ce qualificatif. Je pense que les Français ont une mauvaise image des journalistes, peut-être, enfin, je le suppose, c'est une supposition. Et que du coup il veut pas qu'on lui colle cette étiquette quoi.
Ceci étant, journaliste n'est pas une insulte, et si on m'appelle journaliste, ça me va. Je suis pas contre l'étiquette, mais à titre personnel, je ne m'en revendique pas. Je présuppose que votre commission anticipe l'arrivée du sujet numérique dans un univers qui évolue extrêmement rapidement. Je pense effectivement qu'il faut prendre les devants et s'interroger dès aujourd'hui sur l'évolution de l'environnement normatif. Les sujets que vous avez balayés, monsieur le président, sont effectivement nombreux et complexes, et il est jamais trop tôt pour s'en saisir. La régulation d'Internet, c'est un sujet aussi vieux qu'Internet, et c'est un débat légitime. Internet, c'est un foisonnement. On y trouve le meilleur comme le pire. Qu'on le veuille ou non, Internet est devenu un haut lieu du forum démocratique. Les citoyens s'y informent, les citoyens y débattent et les citoyens s'y forgent des opinions. De grands mouvements sont nés sur Internet, je pense aux Gilets jaunes, au Printemps arabe ou encore à MeToo. Balzac disait que le bistrot était le parlement du peuple. Aujourd'hui, c'est sûr, Internet est un bistrot pour le peuple. Mais l'expérience montre que légiférer sur le numérique, c'est toujours un peu délicat. D'Adopi à la loi Avia, on a vu de fausses bonnes idées qui pouvaient mener à des impasses. passe. Une fausse bonne idée consiste par exemple à copier-coller des règles d'un secteur à un autre, par exemple l'audiovisuel et son gendarme, l'ARCOM, qui répondent à des règles qui leur sont propres. Je pense que l'ARCOM ne doit pas devenir le gendarme d'Internet. Le régulateur des contenus d'Internet existe, c'est le juge judiciaire. Il faut garder un système ouvert pour que chaque citoyen puisse s'exprimer librement. Pas de statut, pas de label, pas de privilège.
C'est très important ce que dit Jean. Jean, il est pour qu'il n'y ait pas d'autorité de régulation d'Internet, disant qu'il y a déjà une autorité qui est le juge, qui est la justice, et que s'il y a des dingueries qui se passent sur Internet, quelle que soit la plateforme, eh bien, il faut que les gens portent plainte et que les gens puissent être poursuivis pour leurs propos. Voilà. Et pas de créer, ce qui est une forme de tentation aujourd'hui, une instance de régulation ad hoc, comme l'ARCOM par exemple pour les médias audiovisuels, ou une labellisation des créateurs de contenu en matière d'information dont on a aussi beaucoup parlé. On est totalement au centre de la thématique de réflexion de cette commission du Sénat, c'est très intéressant.
Il faut des garanties et des protections pour tous. Il y a sans doute un travail à mener sur la transparence des algorithmes. Même si Twitch est une plateforme un peu particulière qui est très très peu algorithmée, le DSA européen se met en place, c'est encore lent, c'est encore partiel. Évidemment, les GAFAM ne jouent pas le jeu, ils et elles ne veulent pas ouvrir le capot, il faut peut-être les y contraindre. Sur les ingérences étrangères, il y a sans doute un travail à mener sur la fragilité des modèles économiques des créateurs de contenu. Cette fragilité peut les rendre perméables à des pressions extérieures. La seule aide à laquelle nous pouvons prétendre, c'est celle du CNC dont a parlé Gaspard, une aide très faible au regard des montants que touche...
Bon, maintenant elle est passée à zéro.
...le CNC de la part des plateformes numériques. Et pourtant, nous... créateurs de contenu d'information, sommes exclus de cette aide depuis cette année. Je ne pense pas que ça fait partie de la volonté du législateur d'exclure les créateurs de contenu d'information de l'aide du CNC. En conclusion, le débat public se déroule sur Internet, dont acte, il faut s'en réjouir. J'attends du législateur qu'il protège les libertés et qu'il garantisse les droits. Il s'agit de créer des conditions d'une démocratie vivante à un an d'une élection aussi capitale que la prochaine présidentielle. Je pense que c'est une responsabilité importante.
C'est vachement intéressant, hein, c'est fou. Hein, entre le propos liminaire de Gaspard G, le propos liminaire de Jean et celui de d'Hugo, qui va sûrement être très intéressant aussi. On a déjà deux, mais ça va être trois dans un instant, passionnés, amoureux de leur démarche, de leur démarche d'information sur Internet. La conviction que c'est là que ça se passe aussi. Hein. C'est-à-dire que bon, les médias traditionnels ont sans doute vécu et que le présent et encore plus l'avenir, il est plutôt de ce côté-là. Quoi.
Hugo Travers.
Vous m'entendez ? C'est bon ? Très bien. Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vous remercie d'abord pour l'invitation, pour aborder ce sujet qui est important. Pour me présenter rapidement, j'ai lancé en 2015, à l'âge de 18 ans, en parallèle à mes études que je débutais après le bac, une chaîne YouTube du nom de Hugo Décrypte, avec un objectif très clair dès le début, dès le premier jour, informer le plus grand nombre, notamment les jeunes, sur des sujets qui me semblent essentiels à saisir en tant que citoyen. Je ressentais déjà à l'époque un décalage immense entre l'approche de certains médias et la plus jeune génération. Un décalage qui prenait plusieurs formes, mais un décalage déjà justement sur la forme, avec une absence de leur part sur des réseaux sociaux où on passait déjà énormément de temps. À l'époque, je passais beaucoup de temps sur YouTube. Les médias avaient plutôt l'habitude d'aller sur Facebook, s'ils étaient même sur des réseaux sociaux. Mais surtout, au-delà de cette question de format, un décalage sur le fond, avec souvent, un manque de mise en contexte, un manque d'explication ou de réponse, tout simplement, aux questions que des jeunes ou des moins jeunes, d'ailleurs, pouvaient se poser. Et j'ai essayé, du coup, à ma toute petite échelle, d'essayer d'y répondre et de faire des vidéos pour essayer d'informer d'abord peut-être ma petite sœur qui avait 15 ans à l'époque et qui voulait aussi comprendre ce qui se passait dans le monde, et puis au fur et à mesure davantage de monde. Ce décalage, c'était une réalité déjà il y a 10 ans pour ce qui est des jeunes, mais je pense au passage que c'est une réalité pour toutes les générations, et en tout cas de plus en plus, au fil des années. Et le fait de voir de notre côté qu'on est de plus en plus suivi, pas seulement par des jeunes, c'est aujourd'hui des personnes en famille, des personnes plus âgées, qui passent du temps elles aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, et qui viennent s'informer. On voit donc que c'est un sujet qui est beaucoup, beaucoup plus large. C'est un travail qui a été réalisé dès le premier jour sans lever de fonds, sans avoir été racheté non plus, Gaspard aussi en parlait tout à l'heure, sans avoir été racheté non plus par un grand groupe ou autre qui serait capable potentiellement d'injecter beaucoup d'argent. Aujourd'hui, je détiens l'intégralité de la chaîne et au passage, on ne reçoit pas non plus de subventions publiques. Alors, le nom de la chaîne, Hugo Décrypte, peut laisser penser à quelque chose de très personnel dans l'approche. En réalité, c'est tout autre. D'abord parce que j'ai beau incarner encore un certain nombre de contenus sur la chaîne. D'abord, personne ne s'informe via nos différents réseaux pour avoir mon opinion personnelle sur tel ou tel sujet. Les gens qui suivent nos réseaux, a priori, s'informent. On le voit dans les retours, pour avoir une information qui se veut rigoureuse, qui se veut fiable, qui se veut factuelle, quelles que soient les...
C'est intéressant que quelqu'un disait dans le chat, et à la lumière de ce que dit Hugo, c'est vrai que Hugo se voit comme plus un média d'information que comme un média de décryptage. Hein.
Les différents formats que l'on peut proposer. Par ailleurs, je ne suis pas tout seul à travailler sur la chaîne, c'est plus un projet personnel. Nous sommes 42 aujourd'hui au sein de l'équipe à travailler au quotidien sur ces différents formats. Parmi eux, il y a 16 journalistes à temps plein qui disposent de la carte de presse. On pourra peut-être en parler après, ça n'a pas été évident au départ, mais qui disposent aujourd'hui de la carte de presse, dont certains aujourd'hui d'ailleurs qui incarnent les différents contenus qu'on peut proposer sur les réseaux sociaux. L'approche et la rigueur comme ça qu'on...
Alors certains sont surpris, mais c'est fou, hein. Ouais, c'est fou. Ceux qui ne consomment pas le contenu, du coup, ne se rendent pas compte. Mais là, il vient d'évoquer le chiffre de 42 journalistes avec carte de presse, puisqu'il s'est battu pour que la commission de la carte reconnaisse qu'il était un média d'information et rigoureux. Et aujourd'hui, effectivement, Hugo fait travailler 42 journalistes. Et sans doute plus de salariés, puisque là, il ne parle que des journalistes. Non, c'est pas 42 journalistes. Ah, c'est 42 salariés. Ok. Pardon, 42 salariés et 16 journalistes. Oui, ça faisait quand même beaucoup. Bon, après, un grand quotidien comme Libération, Figaro, Le Parisien, c'est 200, 300, 400 journalistes. Donc on n'est pas... Parce qu'en fait, fabriquer de l'info, ça demande énormément de temps. Énormément de moyens. Donc 16 journalistes, c'est beaucoup. C'est très impressionnant pour une rédaction sur Internet. Évidemment... Si on compare avec les médias traditionnels, on n'est pas sur la même échelle, quoi. Voilà. Mais c'est incroyable en vrai. Et je ne sais pas quel âge a Hugo, mais il est encore très très jeune. Et l'idée que son travail fasse vivre 42 personnes aujourd'hui, c'est très impressionnant. C'est très très impressionnant. Moi, je suis vraiment admiratif de ce genre de parcours. Venant de 29 ans, venant de quelqu'un qui raconte qu'à 18 ans, il crée sa chaîne YouTube parce qu'il a envie de que les gens autour de lui, notamment les plus jeunes, comprennent l'information. C'est juste incroyable.
S'impose depuis le début. Elle est là depuis le début, mais la reconnaissance par cet écosystème-là, des médias, des journalistes, elle s'est faite de façon beaucoup plus progressive. Je me souviens encore de l'invitation, soit dans certains médias, soit dans certaines écoles de journalisme. Jean, tu peux en témoigner aussi, où notre travail était parfois jugé, critiqué et honnêtement, souvent par principe, c'est-à-dire que le simple fait d'essayer d'informer sur les réseaux sociaux, de faire ce travail de pédagogie sur les réseaux sociaux, était vu comme eh bien, quelque chose d'impossible, quelque chose comme trop superficiel, pas à la hauteur, on va dire, des sujets qui pouvaient être traités. Aujourd'hui, ce qui est intéressant à observer, c'est que nos formats les plus courts, ils se font notamment sur TikTok ou sur d'autres réseaux sociaux comme Instagram. C'est des sujets qui font en moyenne 2 minutes. 2 minutes, c'est déjà une longueur très comparable, voire supérieure à certains sujets que l'on peut retrouver sur des journaux télévisés ou sur des chaînes d'information. Et ça, c'est nos formats les plus courts. Maintenant, ça, c'est une minorité de nos contenus. La plupart de nos contenus, ce sont des contenus qui sont plus longs. C'est des entretiens, par exemple, avec des responsables politiques. Ça peut être lors d'élections. Ça peut être Emmanuel Macron, le président de la République, lors de sujets d'actualité qui sont forts. Ça peut être des chefs d'État étrangers, notamment Volodymyr Zelensky en Ukraine, avec une interview de près d'une heure qu'on a pu proposer sur YouTube. C'est des reportages, c'est des enquêtes, c'est tout un tas de grands formats que l'on propose désormais sur les réseaux sociaux pour informer au mieux. Par ailleurs, ça a été aussi plus récemment des déclinaisons locales de notre travail pour essayer d'informer aussi à l'échelle locale parce qu'on considère que c'est important. On a un prisme sur notre média qui est très porté sur l'actualité internationale et on estime que c'est extrêmement important de le faire aujourd'hui. Mais il y a aussi un prisme local. On a ouvert des bureaux à Marseille, à Lyon et au Québec aussi. Donc il y a un enjeu de francophonie de notre côté pour essayer d'informer aussi à l'échelle locale avec des journalistes sur place qui font ce travail au quotidien, notamment sur les sujets politiques avec les municipales, notamment récemment. Et enfin, on a aussi lancé un nouveau média récemment, il y a près de 2 ans maintenant, qui s'appelle Élan, un média qui vise à aider les jeunes à entrer dans ce qu'on appelle, avec des traits et des guillemets, mais la vie d'adulte. Donc c'est tout un tas de sujets qui nous paraissent essentiels, là aussi, à vulgariser et à rendre accessible. Ça peut être de la découverte de filières, la découverte de certains métiers qui sont parfois méconnus. Ça peut être aussi des questions très pratiques. On n'apprend pas à l'école à trouver facilement un logement ou à, je ne sais pas, préparer un CV, bref, faire sa première déclaration de revenus peut-être plus tard. C'est des choses aussi, on essaie d'accompagner et d'aider les jeunes, mais aussi d'ailleurs, au-delà de la dimension pratique, de sensibiliser un certain nombre de sujets et de porter un certain nombre de sujets, notamment en matière de santé mentale, parmi d'autres. Aujourd'hui, on compte plus de 20 millions d'abonnés cumulés sur les différents réseaux sociaux. Il y a un sondage récent réalisé par Odoxa pour Influx qui indiquait que près de la moitié des 18-24 ans s'informe une à plusieurs fois par semaine via notre chaîne YouTube. C'est un tiers aussi des 25-34 ans qui s'informe au moins une fois par semaine sur notre chaîne YouTube. Et autre chiffre intéressant qui était ressorti de l'étude, qu'on n'a pas commandé, mais il s'avère que j'ai pu voir les résultats, la durée moyenne de d'écoute ou de visionnage est de 15 minutes sur une session. Donc encore une fois, ce n'est pas des sessions qui sont courtes, c'est plus d'une fois par semaine et c'est souvent 15 minutes en moyenne par session. Et surtout, on voit une évolution au fil des années. Pour autant, et je terminerai là-dessus, le succès de notre chaîne et et de son développement, il ne doit pas omettre, selon moi, une réalité. Nous, on a réussi à se construire, à se développer après plus de 10 ans, mais la réalité, c'est qu'il y a en ligne, sur les réseaux sociaux, énormément de créateurs de contenu d'information, énormément de journalistes, énormément de médias aussi qui se créent en collectif et qui ont du mal à trouver un modèle économique qui est viable et qui est stable et qui est serein, et ce, alors que ils font un travail absolument crucial et vital, d'information sur les réseaux sociaux. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. En tout cas, je suis ravi de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet-là et d'essayer de répondre à vos questions.
On va... Bon, c'est assez impressionnant, effectivement. 3 profils différents, voilà. 3 passionnés d'actu, 3 créateurs de contenu d'information, avec des démarches différentes, avec des lignes éditoriales différentes, avec des masses et des moyens différents. Du côté, pour dire les choses, du côté de Gaspard G et du côté Crypt, on a deux petites entreprises déjà. Hein. Et Jean, qui est plus dans une démarche personnelle et de décryptage, tandis que du côté d'Hugo, on est plus sur l'émission d'information. Sans proposition particulière de décryptage, si j'ai bien compris, et je connais pas assez le contenu de Gaspard G, mais il va sûrement en parler. Mais c'est très impressionnant.
Plusieurs questions un peu courtes. Je vais commencer par vous demander en fait votre modèle économique à tous les trois. Ah. Est-ce que c'est seulement de la pub? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Oui, vous avez raison. En plus, Jean, il a une spécialisation sur l'actualité politique. Tout à fait.
Plus. Voilà. Question courte.
Madame Sylvie Robert pour le PS. Merci.
Question courte, réponse courte. Oui, moi, c'est de la publicité uniquement. J'ai géré 80% de mon modèle de revenu qui dépend de ces partenariats, ces segments de publicité incarnés par moi directement. Et le autre 20%, ça va être de la redistribution de richesses perçue par les plateformes YouTube, Spotify, Facebook, etc., qui nous lèguent une partie, un pourcentage des publicités automatiques, mais qui sont cette fois-ci placées automatiquement sur nos vidéos. Je ne sais pas si on fait bien... Pardon, excuse-moi.
Sans vous le souhaitiez ou vous avez quand même eu cette maîtrise-là? Pardon.
Oui, on a accès au fait qu'on puisse diffuser ou non de la publicité automatique sur nos vidéos, quelle que soit la plateforme en général. Simplement, on ne choisit pas les annonceurs qui sont diffusés.
Bon, vous connaissez ça par cœur, c'est pub et sponsor. Voilà.
Vos revenus,
c'est-à-dire
vos revenus, c'est-à-dire la part de tout ce qui vous rapporte en termes de publicité.
Les revenus publicitaires de la chaîne, je crois que c'est la question de la sénatrice.
Sur... Le chiffre d'affaires de la régie.
Voilà, c'est ça.
Le chiffre d'affaires de la régie, je pourrais vous le communiquer dans un temps 2 si vous voulez. J'ai pas exactement
vous avez pas
tous
en
les
tête
chiffres.
Du tout.
C'est drôle. Bon, c'est pas la même intention de la sénatrice que l'intention du rapporteur à l'oncle à l'Assemblée de faire des clips. J'ai pas vu beaucoup de clips sur les réseaux sociaux postés par cette commission, dont j'ai découvert l'existence par vous d'ailleurs. Mais voilà, c'est le, il y a un rapport, il y a un rapport à l'argent en France qui fait que voilà, c'est on ne dit pas les chiffres parce que voilà, on sait qu'après c'est les d'autres personnes vont s'en saisir, voilà, et vont créer des polémiques dessus, quoi. Donc voilà. Merci Soufrejour. Merci encore Célix.
Même approximativement.
Je peux vous dire que l'agence Saint-Elo fait 2 500 000.
Hop, il y a les chiffres.
1000 euros de chiffre d'affaires. Et moi, ça doit être un peu moins d'1 million.
D'accord.
Autant pour moi. Donc, Intello, 2,5 millions de chiffre d'affaires. Et Gaspard G, uniquement la chaîne, 1 million. Un peu moins d'1 million de chiffre d'affaires.
Ah, mais c'est intéressant. Merci.
Alors, sur Twitch, le modèle économique de base, c'est le financement participatif. Sur Twitch, il est possible de donner de l'argent à son créateur préféré ou à ses créateurs préférés. C'est un peu le modèle économique du chapeau, si vous voulez. Chacun met une pièce, ceux qui veulent mettent une pièce, et à la fin, ça permet à l'artiste de vivre. Bah, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est pour l'essentiel des émissions que je fais. J'ai aussi quelques revenus publicitaires. Twitch partage avec moi un petit bout des publicités que j'affiche ou que j'accepte d'afficher sur mes émissions. En ce qui me concerne, je n'en affiche aucune parce que j'en ai pas envie. Donc je m'assois sur un revenu. Et puis par ailleurs, j'ai aussi des partenaires avec lesquels, pour le coup, je fais de la publicité, de l'annonce de partenariat. Je fais des émissions sponsorisées. J'ai travaillé par le passé avec le Conseil d'État, par exemple, qui a été un client. J'ai travaillé avec, en ce moment, un service de livraison de nourriture à domicile pour qui je fais de la communication. Et ensuite, j'ai une émission, une de mes émissions, je fais une émission par jour, une de mes émissions qui s'appelle Backseat, qui a lieu le jeudi. Elle a son modèle économique séparé. J'en suis producteur et cette émission fait à peu près 500 000 euros de chiffre d'affaires par an. C'est son financement, elle ne fait pas de bénéfices, quasiment pas. Et là, on a à peu près 40% qui est du financement participatif. On a 30% qui sont des partenariats, là aussi de la publicité. Et le reste, c'est soit des ventes de places pour le public, soit une toute petite aide du CNC.
C'est intéressant parce que Jean dit que malgré le budget important de Backseat, hein. C'est cher à produire Backseat, hein. C'est une émission ambitieuse, il fait quasiment pas de bénéfices avec, quoi.
De mon côté, bon, c'est assez similaire sur la forme, et pour rappeler au passage le contexte, qu'on n'a pas de subvention publique, on n'a pas non plus de grands groupes capables d'injecter de l'argent. Je pense que de mon côté, et c'est sûrement la même chose pour Gaspard et Jean, il y a une volonté, encore une fois, de faire en sorte que le contenu soit accessible au plus grand nombre, et pour qu'il soit accessible au plus grand nombre dans notre cas, ce serait compliqué de le mettre derrière un système par abonnement et un paywall, comme on l'appelle, parce que forcément, le contenu serait beaucoup moins accessible et quand on veut informer des jeunes, c'est pas forcément idéal. Donc, c'est la monétisation, effectivement, via la publicité. Même chose, très rapidement, mais c'est les publicités qui vont s'afficher avant les vidéos ou avant les podcasts, par exemple, dans le cas des podcasts. C'est des partenariats qui vont être faits. Donc, on l'a dit, on a une quarantaine de personnes dans l'équipe. On a des journalistes qui ont la carte de presse, qui font leur travail. On a aussi une équipe commerciale chargée de ces sujets et qui justement gère cette dimension-là et ensuite la diffusion sur nos différents réseaux. Et évidemment, déjà c'est la loi, mais même avant tout ça, on était très clair et transparent dessus. Dès qu'un contenu est réalisé avec une marque, c'est indiqué noir sur blanc et ça évidemment c'est quelque chose qui est fait. Je pense que c'est évident pour tout le monde, mais c'est toujours bien de le rappeler. C'est obligatoire de toute façon depuis quelques années. Et ensuite, on a d'autres sources de financement. On n'a pas de financement participatif comme on peut avoir sur Twitch, parce qu'on n'est pas sur Twitch notamment. Donc, c'est une des raisons qui est assez simple.
Plus sur Twitch, parce qu'à une époque, pas longtemps, mais dans mon souvenir, Hugo a streamé un petit peu.
On a aussi tout un travail qui peut se développer de production de vidéos et de production de formats, notamment avec des groupes audiovisuels. On a travaillé notamment dans le passé avec France Télévisions. Et donc voilà, c'est comment ça fonctionne aujourd'hui.
Dans le passé, alors moi c'est une question que je me posais, de savoir si Hugo collaborait toujours avec France Télévisions. Il, clairement, il dit dans le passé, donc manifestement c'est terminé. C'est intéressant parce que parmi les exemples qu'a cité Delphine Ernotte devant la commission de l'Assemblée nationale cette fois pour dire que France Télévisions essayait de prendre le virage des nouveaux modes de consommation de l'information, elle a cité ses collaborations avec Hugo et avec une deuxième personne. Avec une deuxième personne, je ne sais plus qui, c'était Hugo et Squeezie. Voilà. Alors Hugo, parce qu'il y avait eu une collab un moment sur France 2, qui semble terminée d'après Hugo, et Squeezie, parce que France Télévisions avait acheté les droits de diffusion du GP Explorer. Qui en vrai... Alors, pardon, je suis un peu critique sur ces deux propos. Ah oui, alors Zerator, mais Zerator n'a pas du tout été cité par Madame Ernotte. Elle aurait dû, d'ailleurs. Donc Squeezie et Hugo Décrypte, et j'ai trouvé ça un peu approximatif, parce que cet achat de droits de diffusion de France Télévisions, des droits de diffusion de GP Explorer, n'était pas vraiment une collab avec Squeezie. Hein. Je ne crois pas avoir vu Squeezie sur France Télévisions. Hein, c'est de l'achat de droits de diffusion. Et pour Hugo, effectivement, c'est quelque chose dont je pensais que c'était, ça devait se décliner au passé, se conjuguer au passé. Et à l'instant, Hugo vient de le confirmer, manifestement, c'est terminé. Et, mais elle aurait pu citer Zerator avec Boat par exemple, qui là était une vraie coproduction, sauf que Boat s'est arrêté après une saison. Ça devait reprendre en septembre et puis ça n'a pas repris, ça devait reprendre en janvier, puis on est en avril, donc je ne sais pas où ça en est. Tout ça pour vous dire que les exemples cités par la présidente de France Télévisions sur comment France Télévisions essaye de prendre le virage des nouvelles consommations étaient un peu des exemples au passé, si je puis me permettre. Voilà. Alors que, voilà. Elle aurait pu parler de Rivenzi aux Jeux Olympiques, effectivement. Quelque chose qui était un peu plus récent. Ouais. Dalcy, alors Dalcy c'était TF1, Josquin, mais on t'en veut pas.
Aujourd'hui, l'essentiel des revenus sont liés à la monétisation et encore plus au partenariat davantage que la monétisation. C'est l'élément qui... Exactement, parce qu'en fait, il faut se rendre compte que la monétisation des vidéos, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire que de se dire, pour 1000 vues, on va faire X euros sur YouTube, c'est quelque chose qui est important. Ça a l'avantage d'être quelque chose de stable quand on a un rythme de diffusion qui est stable. Mais en termes de proportion, nous, on serait incapable de payer 42 personnes avec la monétisation des vidéos ou des podcasts ou je ne sais quoi. Donc, c'est vraiment la dimension de partenariat qui est indispensable et qui est importante dessus.
Par rapport aux plateformes, vos liens avec aux plateformes, on a plusieurs questions, mais notamment une qui découle de cette question du financement. Vous nous avez dit...
Vous êtes plusieurs à me dire qu'il n'y avait pas de diffusion des programmes de France Télévisions sur la chaîne de Rivenzi. Alors, ça ne change rien. Moi, je parle de collaboration entre des visages de la création de contenu sur Internet et les médias traditionnels. Donc, Rivenzi diffuse ou pas sur sa chaîne, c'est toujours un créateur de contenu qui fait un truc pour France Télévisions. Après, où ça le diffuse, on s'en fout en vrai. Là, ce qui est important, c'est de voir comment des mondes différents essayent de travailler ensemble. Voilà. Zach Nani a fait aussi des trucs, mais c'est assez réduit pour l'instant. On sent que ça tâtonne, on sent que ça cherche, on sent que ça essaye, voilà. Mais on voit que ça s'arrête aussi. On voit que c'est de temps en temps, on voit qu'il y a des trucs qui sont lancés mais qui ne se poursuivent pas. Hugo n'est plus sur France 2, Boat à ce jour est arrêté, Rive il a fait des trucs mais c'était de temps en temps. Donc on sent que ça tente, on essaye, ça teste, mais pour l'instant le modèle n'est pas trouvé.
Gaspard, que vous aviez une régie publicitaire, si je comprends bien c'est pareil pour vous également. C'est une partie de la ressource publicitaire qu'aurait pu percevoir la plateforme qu'elle ne perçoit plus du coup directement. Comment ont-elles réagi sur le fait que vous ayez vos propres régies publicitaires ?
En fait, j'aimerais préciser que pour la plupart d'entre nous, on est arrivé à un moment donné où YouTube, Internet, les réseaux sociaux étaient déjà structurés comme ça. C'est-à-dire que, au fond, les Squeezie, Cyprien, etc., se finançaient déjà à travers des opérations spéciales avec des annonceurs, etc. Donc en fait, nous, on est arrivé, enfin, en tout cas, je vais parler pour mon cas, je suis arrivé dans un moment où je me sentais plus proche d'un créateur de contenu que du Figaro ou de Libé, et qu'il fallait donc me financer de la même manière que mes confrères, que mes pairs. Et donc, en fait, voilà, on s'est financé pareil. En fait, c'est pas de l'argent... qu'on prend aux plateformes numériques, c'est de l'argent en plus qu'on va chercher aux annonceurs pour ces segments de publicité dédiés, incarnés à l'écran.
Mais sur les ressources publicitaires que vous percevez directement à travers votre régie, est-ce que les plateformes en ont une partie ? Est-ce qu'il y a un pourcentage qui revient aux plateformes ?
En fait, je pense qu'il y a deux choses à distinguer. Il y a les partenariats qui peuvent être faits et qui sont gérés directement. Et quand je dis gérer, c'est même produit directement par le média ou le créateur de contenu. Et donc dans ce cas, typiquement YouTube prend 0%. Ils ne sont même pas dans la boucle de quoi que ce soit. une distinction potentielle que vous avez peut-être vue, notamment avec certains médias en ligne, notamment avec qui vous avez pu parler, des médias en ligne nés sur les réseaux sociaux, c'est le fait d'avoir une régie publicitaire pour être capable de vendre une partie de l'inventaire publicitaire de YouTube en plus de ce que YouTube gère directement. Je ne sais pas si je suis très clair, mais pour résumer, Google et YouTube placent automatiquement des publicités avant les vidéos sur YouTube. Il y a un partage de revenus plus ou moins de 50-50, si je ne dis pas de bêtises, entre le créateur de contenu ou le média et Google. Mais pour ce qui est, mais les médias ont aussi la possibilité de vendre eux-mêmes, s'ils ont un annonceur, une marque de luxe qui dit « moi, je veux être sur votre chaîne précisément ». À ce moment-là, il y a un partage de revenus aussi, que je ne maîtrise pas entièrement, mais qui est, il me semble qui est différent. Voilà dans les grandes lignes.
Sur la question du lien avec les plateformes, alors cette fois-ci sous un autre aspect, évidemment votre audience dépend de la visibilité que vous avez sur chacune des plateformes, vous êtes présent en tout cas, et la visibilité dépend aussi de l'algorithme des plateformes. Est-ce que vous avez des data scientists, c'est ça, pour analyser les plateformes et essayer de...
Alors, pour l'instant, je reste sur ma fin sur un truc, je trouve que c'est passionnant à écouter, hein. Et je trouve que ça va beaucoup trop vite, parce que regardez, on est déjà à un tiers de... Les auditions sont beaucoup plus courtes que les auditions de l'Assemblée nationale sur l'audiovisuel public. Là, on est à... Elle fait qu'une heure 19. C'est très frustrant, parce que les trois, là, avec les questions du président, là, franchement, on voudrait que ça dure 3 ou 4 heures. Pour l'instant, je reste sur ma fin, sur un truc que j'ai pas compris, Gaspard G, c'est l'histoire de la séparation régie publicitaire. Là, pour moi, j'espère qu'on va y revenir, parce que j'ai toujours pas compris.
D'être le plus visible possible en décryptant, je vais reprendre votre terme, en décryptant les algorithmes. Est-ce que vous produisez des reportages ou des informations en fonction aussi de ce qui permet d'avoir une certaine visibilité sur les plateformes? Comment ça se passe, ce lien?
Alors, je réponds en premier parce que je suis assez peu concerné.
Il n'y a pas d'algorithme sur Twitch, enfin, je pense que c'est ce que va dire Jean.
Comme je vous le disais dans mon propos introductif, Twitch a très très peu d'algorithmes. Twitch, c'est très brutal, Twitch en réalité. Vous avez les plus gros contenus, en tout cas en nombre de spectateurs, qui sont mis en avant par ordre décroissant. C'est aussi simple que ça. Il y a un petit algorithme de recommandation qui existe pour des chaînes recommandées, mais qui se base sur la langue que vous parlez et sur les contenus que vous avez consultés précédemment. Mais c'est pas vraiment un algorithme, c'est une base arithmétique assez simple. Quelle était votre deuxième question, excusez-moi ?
Sur la visibilité, est-ce que vous avez des data scientists qui essayent de vous accroître la visibilité d'essayer d'analyser quels sont les contenus que vous produisez qui ont le plus de visibilité et du coup, est-ce que ça a un impact aussi sur votre production de contenu?
Alors, pour le coup, ça ne va pas être mon cas puisque je traite de l'actualité politique. Ouais. J'ai coutume de dire que c'est l'actualité qui m'impose les sujets dont je parle. Ce n'est pas moi qui les choisis. Donc, je parle du sujet du moment et j'espère que les gens me suivront. Mais je ne peux pas faire grand-chose d'autre.
Non, mais pour préciser, non, pareil, on a beau avoir du monde dans l'équipe aujourd'hui, il n'y a aucun data scientist. On passe du temps nous-mêmes sur les réseaux sociaux à essayer de comprendre comment ça fonctionne et faire des contenus qu'on juge pertinents pour informer du monde sur les réseaux sociaux. Ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Donc, concrètement, ça veut dire tester des choses, voir en fait comment est-ce qu'on peut informer sur ces différentes plateformes. Quand on arrive sur TikTok en 2020, il n'y a aucun média ou quasiment aucun média d'information qui est présent dessus. Simplement, on se dit, y a des millions de jeunes qui sont présents sur ce réseau. Oui, c'est des formats courts, mais peut-être qu'on peut essayer, encore une fois, de faire des formats au moins de 2-3 minutes pour sensibiliser à certains sujets, pour vérifier certaines fausses informations et faire ce travail de pédagogie. Enfin, voilà, pour informer sur ce réseau. Et donc, on crée des choses et on essaie de voir si jamais ça permet d'informer. Un enjeu, une question ensuite qui vient, c'est est-ce que les algorithmes viennent dicter finalement notre contenu? J'anticipe un peu une question qui revient à juste titre souvent. Je pense que sur les formats, les grands formats, évidemment, qu'on est de fait sur YouTube, il y a des formats qui sont propres à YouTube. On ne va pas faire la même chose que sur TikTok. Donc, de ce point de vue-là, oui, d'où les différents essais qu'on peut faire. Maintenant, sur le fond, absolument pas, et à tout point de vue, absolument pas. Ce que j'entends par là, c'est qu'on traite les mêmes sujets sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube. On a la même approche, on a la même façon d'aborder les sujets. On a aussi une ligne éditoriale, et parfois, il y a des sujets, on sait qu'ils ne vont pas fonctionner, je dis ça avec des grosses guillemets, mais on considère que c'est important d'en parler, et donc on va en parler. On a par exemple un format d'actu du jour sur YouTube et en podcast. On met régulièrement à la une de ce format d'actu du jour des sujets géopolitiques qui ne font jamais ou quasiment jamais la une des médias, mais on estime que c'est important. au Soudan, par exemple, une crise humanitaire ou la guerre au Yémen ou des sujets de ce type-là. On sait que ce n'est pas les sujets qui vont faire beaucoup de vues. C'est bizarre dit comme ça, mais factuellement, c'est le cas. Mais on considère que c'est important et on va en parler dans tous les cas. Et on va essayer, par contre, de sensibiliser le mieux possible à ce qui se passe dans le monde. Donc voilà, on est évidemment de fait impacté par les algorithmes, mais c'est à nous aussi de tenir en quelque sorte notre ligne et de faire ce travail au mieux pour informer le mieux possible.
Pas de data scientist non plus chez nous, mais peut-être une réflexion autour de l'algorithme. Je crois qu'effectivement, on a des exemples d'ingérence de l'algorithme. Je pense au cas de TikTok et de Călin Georgescu en Roumanie, dont on a parlé d'ailleurs sur la chaîne. Mais en grande partie quand même, ces algorithmes, ils suscitent beaucoup de fantasmes, mais ils sont le reflet de ce que veulent voir les audiences. Et je pense que ça, il faut quand même l'avoir au cœur de notre réflexion et que moi, j'invite aussi les citoyens, les spectateurs à se poser des questions sur ce quoi ils cliquent et ce à quoi ils décident d'accorder leur attention, puisque ces géants distributeurs de contenu sont avant tout des machines à cash et ont pour objectif de nous faire garder le plus longtemps possible sur les contenus. Donc nous poussent des contenus que nous consommerons.
Mais on a un sujet quand même démocratique qui est intéressant, c'est-à-dire que les algorithmes qui poussent les contenus, notamment d'information et notamment du débat politique, sont décidés dans la Silicon Valley par des géants du numérique qui répondent à des règles qui sont pas toujours les nôtres, voilà, qui sont des règles de business. Alors parfois, il y a un côté très transparent et très cash qui peut être assez straightforward, comme ils disent. À d'autres moments, on peut se poser la question de la qualité de notre débat démocratique et de, voilà, d'où le DSA, d'où le fait que le Parlement européen et l'Union européenne s'est saisie du sujet et essaye de forcer la transparence, à minima la transparence, avant de mettre la main dedans, à minima la transparence.
Je crois que c'est vous, Gaspard Jay, qui aviez fait, au moment de l'élection de Trump, la deuxième élection, qui avait fait une émission justement pour montrer comment les réseaux sociaux avaient influencé, l'équipe de campagne de Trump via les réseaux sociaux avait influencé le débat démocratique. Oui, vous vous souvenez, parce que c'est une question que nous avons aussi au niveau de cette commission d'enquête, non pas pour ce qui se passe aux États-Unis, mais ce qui pourrait se passer en France l'année prochaine. Quel est votre regard à vous là-dessus? Est-ce que un phénomène d'influence, pas forcément étrangère, domestique, par les réseaux sociaux et de fabrication de l'opinion, ou d'influence sur l'opinion, pourrait se dérouler.
En parenthèse, je sais, c'est choquant de voir un président de commission qui a travaillé, qui a manifestement regardé même le contenu des personnes auditionnées. Alors, on est choqué, mais peut-être qu'on peut se dire que c'est comme ça d'habitude. Et que celle que nous avons regardée récemment sur cette chaîne qu'on a react, c'était peut-être celle-là qui était l'exception. Donc, voilà. C'est intéressant.
En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui...
Et puis, ça change aussi qu'une question sur deux ne porte pas sur le RN. Ça aussi, ça change.
Il y a de plus en plus d'émissions, de podcasts qui vont inviter des personnalités politiques à s'exprimer aussi parce que vous, politique, vous appréciez venir sur le numérique parce que ça vous permet peut-être de toucher... Alors, les sénateurs ont moins ce sujet de devoir séduire un électorat en direct, mais les parlementaires, les candidats aux élections présidentielles, locales, etc., apprécient ces formats-là parce qu'ils leur permettent de toucher une audience et de faire campagne aussi sur des médias qui sont plus plébiscités par les moins de 35 ans en France. Maintenant, c'est mon point de vue, mais je ne serais pas trop alarmiste par rapport à l'état de notre paysage informationnel et médiatique en France. Pourquoi ? Parce que je crois qu'Internet a permis aujourd'hui d'avoir une diversité. Alors évidemment, il y a plein de commissions qui sont intéressantes. C'est intéressant de faire notre autocritique collective autour de la table, ici, dans l'autre champ parlementaire. Mais tout de même, on a des médias d'opinion, de gauche, de droite, très très à gauche, très très à droite. On a des médias de satire, on a des médias d'investigation qui n'appartiennent pas à des milliardaires, ne font pas partie du service public. On a toujours un service public, et il faut le protéger parce que je crois que c'est important, à la télévision et à la radio. On a une multitude de chaînes de télévision qui existent, de la presse écrite. Voilà, notre paysage informationnel est riche. Et on vient le compléter. Et je crois que tout ceci est hyper complémentaire. On le voit avec l'exemple.
C'est hyper intéressant ce que dit Gaspard, en fait. Qu'on a un paysage informationnel riche en France, divers. Et que, à l'entendre, le citoyen a le choix, finalement, de choisir une information de qualité, quoi. C'est pas mal.
D'Hugo, avec l'émission que tu as fait sur France Télé. Moi, de mon côté, je développe une émission avec TF1. J'ai travaillé avec France Inter. On voit aussi.
C'est quoi l'émission que Gaspard fait avec TF1? Je sais pas, la ref. Par contre, comme je regarde pas TF1, comme je regarde pas la télé, pardon, je corrige. C'est quoi le... Vous l'avez ou pas? Interview de JLM? Les dossiers de Gaspard G, c'est sur YouTube? Mais c'est sur YouTube. C'est des interviews de politique. Et il a fait Mélenchon. D'accord, mais pourquoi? Avec quel rapport avec TF1? Parce que c'est diffusé peut-être sur TF1+. Ok, c'est intéressant. Oh. C'est nouveau, il n'y a qu'un épisode. Ah ouais? Attendez, pause, c'est vachement intéressant. Donc, ok, Gaspard G. Ah, ça, c'est intéressant, ça. TF1. On va Mélenchon. Très bien. Alors, j'ai un truc, là, qui a une semaine. L'interview. Gaspard G. Mélenchon face à ses dossiers. Ça doit... Facebook, TF1. Ah ouais. Donc, là, par exemple. Là. Donc, là, c'est sur TF1. D'accord. TF1 Info. Ah. Bon, comme je le dis parfois, les alliances entre médias traditionnels et créateurs de contenu, ça marche pas toujours. On va la trouver. En tout cas, je l'ai sur la chaîne de Gaspard.
Renforcez la visibilité de votre maison de vacances avec piscine. Plus de.
Ouais. J'ai pas de compte. Si j'ai un compte pourtant, mais je suis peut-être pas connecté. Ah, faut se connecter, ouais. Faut se connecter aussi, ouais. Ah ouais, comme ça, ils ont le mail et tout. Eh oui. Ah oui, c'est normal. Data, acquisition de data. Alors c'est quoi? Donc c'est ça alors? Gaspard G et TF1 Info, vous avez raison. Vous voyez là? Qui est vraiment Jean-Luc Mélenchon? Dans ce premier, donc c'est tout nouveau, hein. Dans ce premier épisode des dossiers, voilà, en partenariat avec... Alors du coup, ce qu'on vient de voir va me faire poser une question. L'Internet, c'est un métier. Bah, tu vas voir, Elimax, c'est très intéressant ce qui vient de se passer. Qui est vraiment Jean-Luc Mélenchon? Dans ce premier épisode des dossiers en partenariat avec TF1 Info, je reçois le fondateur de la France Insoumise pour un entretien long, exigeant et immersif. À travers des archives rares, je retrace sa trajectoire personnelle, politique, idéologique, de l'enfance aux convictions, des ruptures aux ambitions. Mon objectif est simple, comprendre l'ADN des personnalités politiques aspirant à l'Élysée. Alors, ce serait intéressant déjà de voir qui Gaspard reçoit. A priori, il va proposer à tout le monde. Voilà, ça fait en durée, ça fait 46 minutes. Voilà. Aussi disponible sur TF1. Donc là, si je clique, peut-être que là, on va la voir. Est-ce que je suis connecté? Je ne suis pas connecté. Donc normalement, ça devrait ne pas marcher. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Parce que là, par exemple, on a une émission qui est diffusée à la fois sur YouTube et sur TF1. Sauf que sur TF1, il va falloir créer un compte. Il va falloir donner un email. Alors déjà, il y a le côté se créer un compte, que le public visé par TF1 ici ne regarde pas forcément TF1, n'a pas forcément peut-être un compte TF1. Voilà. Donc, il y a une démarche à faire. Voilà. Et puis en plus, vous donnez votre email à TF1 qui, à un moment, va s'en servir. Si on vous demande de créer un compte, c'est parce que votre email les intéresse. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer si vous avez le choix entre cliquer sur un lien YouTube et créer un compte sur TF1. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Mais c'est sur YouTube en même temps. Mais c'est bien ce que je dis. Et donc je m'interroge sur le nombre de personnes qui vont aller voir la vidéo. Et c'est pareil sur France Télévisions. Voilà. Et c'est l'une des difficultés. C'est l'une des difficultés des médias traditionnels, parce que quand ils essaient de faire ce genre de choses... aujourd'hui, ils essayent d'amener sur leur canal, hein, sur leur plateforme. Voilà. Et c'est normal, il y a une logique économique derrière ça, pour pouvoir mettre leur pub, etc. Sauf que l'entrée est quand même moins séduisante. Et il faut créer un contenu, et il faut mettre son email, etc. Voilà. Et du temps de Boat, par exemple, Boat qui était l'émission de Zerator, elle était diffusée en même temps sur la chaîne de Zera et sur la chaîne France.tv. Et c'est la même émission, mais il y avait très peu de viewers sur France.tv et il y avait l'essentiel des viewers chez Zerator. Là, je pense qu'on a un petit peu le même phénomène. Voilà. Et donc, alors, j'aime bien cette histoire de mais je serais curieux de voir les chiffres. Voilà. Et pour pouvoir jouer au jeu du chat, fallait aller chez Slash. Oui. Et pourtant, il y avait très peu de monde. C'est ça qui était intéressant. Ils avaient essayé de trouver un truc pour faire venir les gens, mais voilà. En tout cas, très intéressant ce que fait Gaspard Gélard. Donc là encore, on a un exemple de tentative de travailler ensemble, médias traditionnels, créateurs de contenu. Voilà, ça, je n'étais pas au courant, c'est pour ça que j'ai pris une petite pause. Donc on était ici.
Un intérêt de la part de ces dirigeants médiatiques, privés ou publics, de nous intégrer dans leurs programmes, créer des alliances inédites. Et voilà, je ne suis pas trop pessimiste sur le sujet.
Ouais, mais alors là, c'est vous qui êtes presque politiquement correct. Parce que moi, ma question, c'était de dire, est-ce que dans les réseaux sociaux, les gestionnaires de réseaux sociaux, les plateformes, peuvent avoir une influence sur les élections à venir en, via leur algorithme, en favorisant telle ou telle opinion, en mettant en avant telle ou telle fausse information?
Alors pour l'instant, j'ai pas d'exemple qui montrerait que des géants du numérique aient voulu interférer avec des élections. Par contre, que des intérêts étrangers aient souhaité interférer avec des élections françaises en s'appuyant sur la puissance des algorithmes et des réseaux sociaux, ça on en a vu, ne serait-ce qu'aux élections municipales. Visiblement, des candidats, j'ai cru comprendre, de la France insoumise, qui avaient été visés par des campagnes d'ingérence qui venaient, semble-t-il...
De Russie.
D'Israël, d'après les premiers éléments.
Non, de Russie. Moi, l'info que j'avais, c'était de Russie. D'Israël? LFI? Remarque, ce serait plus logique, ouais. Ce serait plus logique, du coup. Ouais, c'est vrai.
Mon enquête.
Je dois confondre. La Russie, c'était autre chose.
On a eu des ingérences russes aussi. En tout cas, la Russie a tenté de venir provoquer le débat public français. Pas en touchant les algorithmes, parce qu'ils ne le peuvent pas, mais en faisant un usage assez malin de nos trouilles, de nos peurs collectives qui peuvent monter très très vite, comme vous le savez, sur les réseaux sociaux. Donc pour moi, sans être alarmiste, je considère que
la
le
Russie,
danger n'est pas forcément Russie, du côté des plateformes, en tout cas.
La Russie, c'était notamment en région. Vous avez notamment des sites d'infos qui se créent, qui font penser à un site d'info régional, local, site internet, voilà. Et le truc est un peu, c'est de l'info régionale. Et quand vous grattez, vous vous rendez compte que derrière, ça vient de Russie.
Donc, en première intention, mais peut être du côté de puissance.
Voilà, avec de fausses infos dessus, ouais, pour faire monter un petit peu les tensions, les trucs. Exactement.
Étrangère, bien malinant.
Et pour compléter sur ce point-là, un exemple peut-être le plus marquant, ça a été évidemment l'exemple de X avec Elon Musk. Je pense que vous l'avez tous suivi, où le réseau social a quand même été largement transformé en l'espace de quelques temps, avec parfois d'ailleurs au départ des principes qui, dont l'idée, sont pas des mauvaises idées. Moi, l'idée de me dire, quand ils ont introduit les notes de la communauté, donc l'idée que les citoyens eux-mêmes, enfin les internautes eux-mêmes, allaient se saisir éventuellement de fausses informations et le vérifier avec des sources, etc. Sur le papier, dans l'idée, on peut se dire que ce n'est pas une mauvaise idée. C'est peut-être mieux que d'avoir un groupe privé ou un État ou autre qui irait faire ce travail-là de vérification. Sauf que factuellement, on voit comment est-ce que ce réseau social a été transformé en quelques années, à quel point est-ce que c'est devenu un véhicule de contenu haineux et de fausses informations. Elon Musk, de toute façon, ne se cache pas de ses ambitions politiques ou ses intérêts politiques en Europe, donc ce n'est même pas quelque chose qui est caché. Juste pour compléter peut-être sur la question de l'ingérence, moi, un des éléments que je peux voir le plus fréquemment et le plus souvent, c'est quand on traite certains sujets sur la chaîne et qu'on voit une organisation très importante pour être présent dans les commentaires et pour amener soit une opinion, soit tout un tas d'insultes. L'exemple le plus marquant que j'ai pu voir de mon côté, ça a été en fin d'année dernière, on a sorti une bande dessinée qui porte sur la question de la Russie. Dans ce cadre-là, on a publié un grand format de, je pense, 30-45 minutes qui porte sur la question dont Vladimir Poutine, la façon dont Vladimir Poutine exerce son pouvoir, en voyant aussi évidemment toutes les dérives extrêmement importantes et tout ce qui se passe sur place. Dans les heures qui ont suivi la diffusion de cette vidéo, on a eu le droit d'un coup, mais quand je dis vraiment sur un espace de 2-3 heures, à une avalanche de commentaires. Quand j'ai une avalanche, c'est des milliers de commentaires en une heure, tous avec plus ou moins le même ton. Je vous laisse un peu imaginer, de toute façon vous pouvez le voir vous-même dans les commentaires de la vidéo.
Et souvent dans les pseudos, Il y a des petits chiffres à la fin, petits pseudo vite fait.
Soit à m'insulter personnellement, soit à critiquer le format ou la chaîne, probablement parce que on exposait certaines choses sur la réalité du pouvoir sous Vladimir Poutine. Et c'est pas forcément des bots au sens des robots, ça en vrai j'aurais aucun moyen de le savoir. C'est en tout cas soit des robots qui sont extrêmement structurés et organisés. Et ce qu'il faut garder en tête, et je terminerai là-dessus, c'est que les espaces commentaires des vidéos, quel que soit le réseau social, ont beaucoup plus d'influence qu'on ne le pense. On pense souvent au contenu en tant que tel, mais l'espace commentaire, il est lu quasiment systématiquement par les personnes qui sont dessus. Moi, quand je suis sur TikTok ou sur Instagram, je regarde le contenu, mais quasiment 100% du temps, je regarde les commentaires dans la foulée. Soit parce que c'est intéressant, soit le plus souvent parce que c'est drôle, soit parce que, il peut y avoir mille choses derrière. Donc, il faut être conscient de ça. Des politiques, au passage, on le voit, en sont conscients, parce qu'on les voit un peu partout dans les commentaires de certains posts sur les réseaux sociaux. Ils sont conscients de cette visibilité. Mais ça peut être aussi un espace d'ingérence d'une certaine façon, que ce soit d'ailleurs étrangère ou autre. Mais voilà, c'est quelque chose qui est évidemment présent.
Je sais que certains d'entre vous ont des chiffres à la fin de votre pseudo. Mais il faut pas confondre l'indice et la généralité. C'est-à-dire que dans les pseudos de bots ou les pseudos massivement créés par une personne, par exemple, ou une petite équipe de personnes, ils font très très vite. Et donc, ils gardent souvent les pseudos génériques avec les chiffres qui sont proposés. Voilà, parce que ça va plus vite. C'est pas parce que vous, de temps en temps, vous avez la flemme et que vous gardez le pseudo générique que vous propose Twitch ou YouTube ou peu importe, que ça fait de vous un bot ou un troller, bien sûr, quoi. Donc les Tenritois, les Cosmos 13, les Amgar 2108, les Spiderkid 0912, les Bardunator 33, ne vous inquiétez pas. Et je remercie, puisqu'on parle d'économie du numérique, je remercie Laura, Track MP4, Alexis, Kevin, Furet Vénère, Souffre-Jour 88 et Célix pour les soutiens. Donc je ne toucherai pas au pseudo ici avec des chiffres. Voilà, point.
Vos propos sont très très éclairants et très très intéressants, et vous avez un rôle majeur évidemment actuellement dans le paysage informationnel. Vous disiez qu'il y avait 42 journalistes, enfin vous êtes 42 dont 16 journalistes. Comment vous vous définissez, premièrement, et deuxièmement, dans ces formats nouveaux qui sont très courts, 2 minutes, TikTok, Insta, comment est-ce que ça modifie la compréhension en fait de ceux qui regardent ces vidéos et qu'on Merci ne tombe dire. Pas dans l'absence de nuances, vous voyez, dans la simplification excessive en fait de l'information.
C'est vraiment énervant ces rapports, ces parlementaires qui ont travaillé leur sujet. C'est choquant.
L'information qui est transmise, sachant que vous adressez beaucoup à des jeunes. En tout cas, moi, mes enfants, ils sont Gaspard Gé, Hugo Décrypte et Jean Massier, ils connaissent tous parfaitement.
Non, c'est une très bonne question. D'abord, sur le dernier point, sur la question de comment s'assurer que ça ne n'induise pas en erreur ou autre. Déjà, il faut quand même rappeler que 2 minutes pour un sujet, surtout avec mon débit de parole, factuellement, c'est plus de signes, c'est plus de mots, plus de caractères que beaucoup de sujets à la télévision. Donc, déjà, je pense une forme faut relativiser peut-être tout ça. Et par ailleurs, c'est pas la majorité de nos contenus. Pour cela, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'interdit rarement, voire jamais, de traiter un sujet sur ces réseaux-là, même sur des formats courts, parce qu'on estime aussi que c'est une porte d'entrée pour sensibiliser à certains sujets, pour informer sur certaines choses. On peut se dire parfois c'est trop court, mais c'est souvent, nous, on le voit, une porte d'entrée vers des formats plus longs, d'une heure et demie, qu'on peut proposer avec des enquêtes, des reportages, etc., sur YouTube. Ensuite, encore une fois, il y a un enjeu à faire ce travail de journaliste le mieux possible. Et encore une fois, on a 16 journalistes aujourd'hui qui font ce travail-là, qui vérifient les informations. L'enjeu d'écoute aussi et de dialogue, en quelque sorte, avec ceux qui nous suivent est indispensable, parce que je pense que le risque, parfois, quand on est journaliste au fil du temps, c'est de se dire que on sait ce qui est important à tout prix. On n'écoute plus trop forcément les questions que les gens peuvent se poser. Et donc, on a notre approche, notre vision. Sauf que parfois, on passe à côté de certaines questions que les gens peuvent se poser, soit parce qu'ils ont vu des fausses informations circuler, soit parce qu'ils se posent des questions absolument légitimes. Et cet enjeu d'écoute, je pense qu'il est absolument essentiel pour faire notre travail et adapter aussi notre contenu. Ensuite, sur la première question, il me semble, qui était la question de comment est-ce qu'on se définit. C'est que il me semble que Gaspard aussi le disait au début, mais j'ai un peu arrêté aussi d'essayer d'y répondre, mais parce que factuellement, je me suis lancé déjà sans me poser la question. Je me suis lancé en me disant, je vais faire et je veux faire dès le premier jour un travail qui est fiable, qui est juste et qui respecte en fait tous ces principes-là. Ensuite, qu'on considère comme youtubeur, comme vulgarisateur, comme créateur de contenu, comme je ne sais quoi, voilà, je sais pas. Et pour tout vous dire, j'avais été invité par l'UNESCO il y a près de 2 ans maintenant à une sorte de grande journée de table ronde, des discussions. Ils avaient réuni des créateurs de contenu d'information, des gens en tout cas nés sur les réseaux sociaux, qui ont fait du contenu d'information sur les réseaux sociaux. Et ils ont été réunis avec des journalistes de médias traditionnels qui faisaient des choses sur les réseaux, ou des journalistes qui avaient quitté des médias traditionnels pour faire des choses sur les réseaux. On a passé quasiment 2 jours à échanger sur cette même question, ce même sujet. On n'a pas réussi à avoir de conclusion parce que, de fait, il y a une forme d'hybridation des choses. Voilà, donc maintenant, ce que je sais, c'est le travail qu'on fait, ce qu'on apporte, comment est-ce qu'on permet d'informer du monde et sensibiliser notamment des jeunes à des sujets qui nous paraissent importants et essentiels à
Hugo Travers.
Bardella sur son stream.
Putain, le con. Attends, je voulais interrompre. C'était vachement bien, je voulais rebondir sur ce qu'il disait et rejoindre avec justement ce que disait Gaspard G tout à l'heure. Attends, j'y suis. C'est vachement intéressant ce que dit, parce que Gaspard a dit quelque chose de très intéressant, je veux dire, en disant finalement on devrait être relativement content en France de la diversité de l'info entre les médias traditionnels, radio, télé, médias totalement indépendants, sans pub, il n'a pas cité Mediapart, mais on pensait très fort à Mediapart, sur Internet, créateurs de contenu comme les trois qu'on a là. Voilà. Bon, j'ai spoil, mais manifestement, ça parle de Bardella après. Et en fait, finalement, ce que nous dit Hugo ici, c'est un peu ce que dit Jean. Finalement, les étiquettes, c'est pas si important. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a une multiplication des sources d'infos. Et que certes, il y a des mauvaises sources d'infos, certes, il y a de la désinformation, mais il y a quand même beaucoup de sources d'infos de qualité dans les médias traditionnels, mais aussi chez les créateurs de contenu. Après, comme je le dis souvent, c'est un peu aussi la responsabilité du citoyen. Même si c'est une tâche qui n'est pas facile, de faire le tri. Quoi. Voilà. Donc on n'est pas si mal loti, en fait. J'espère que je reprends à peu près là où était Gaspard.
Comme vulgarisateur, comme créateur de contenu, comme je ne sais quoi. Voilà, je ne sais pas. Et pour tout vous dire, j'avais été...
Putain, j'ai réussi quasiment à arriver là où on était. Quoi. Quel monstre !
Ils ont été réunis avec des journalistes de médias essentiels à connaître. Je sais aussi qu'on a au sein de l'équipe des journalistes qui ont la carte de presse et qui font ce travail-là, et c'était important pour eux d'avoir la carte de presse, parce que c'était aussi une reconnaissance de leur travail, une protection aussi à tout point de vue pour eux, une capacité à aller sur le terrain. Moi, je me souviens de couvertures qu'on faisait de manifestations, par exemple, lors de la réforme des retraites, où c'était compliqué parce qu'on n'avait pas encore nos cartes de presse, et donc les policiers nous disaient non, vous ne pouvez pas passer, alors qu'on faisait ce travail et qu'on informait beaucoup de monde sur ce qui se passait, sur la réforme des retraites, sur tout ça. Donc voilà, c'était un petit défi, un petit enjeu pour l'avoir. Peut-être qu'on pourra en reparler. Mais voilà comment j'essaie de répondre à cette question aujourd'hui.
Alors, pour votre première question, comment je me définis ?
Alors, il a raison. Finalement, l'étiquette n'est pas si importante que ce que l'on fait finalement, et que la qualité de ce qu'on fait. Et puis finalement, journaliste, ça renvoie quand même dans l'esprit des gens à quelque chose de très précis. Et c'est à ce jour journaliste pour un média traditionnel. Quoi. Donc si Gaspard se présentait comme journaliste, si Jean se présentait comme journaliste, si Hugo se présentait comme journaliste, eh bien les gens leur diraient « Ah ouais, mais alors du coup, pourquoi toi tu fais pas ça ?» En prenant exemple sur les journalistes traditionnels. Et comme ils ne font pas comme les journalistes traditionnels et ils font autre chose, en fait ce serait un débat sans fin. On dirait « Ah mais puisque tu te présentes comme journaliste, puisque tu te revendiques comme journaliste, eh bien, pourquoi tu fais pas comme ça, toi ? Voilà. Finalement, ils n'ont pas envie de cette étiquette parce que cette étiquette parle d'autre chose, quoi.
Je me définis par l'objet que je produis. En l'occurrence, sur Twitch, on appelle ça un stream, c'est-à-dire un flux, une diffusion en direct. Je suis donc un streamer. Et vous savez que Twitch est une plateforme historiquement consacrée aux jeux vidéo. Moi, je ne stream pas de jeux vidéo, ou très peu. Je stream de la politique, donc je suis un vulgarisateur.
Tot, Jean. Et Flight Simulator, c'est quoi ?
Réalisateur d'actualité politique. Et ça répond du coup à votre deuxième
menteur,
question.
Celui-là.
J'assume la simplification. Elle fait partie de mon métier. Je suis là pour expliquer, répondre à des questions parfois complexes, qui appelleraient des réponses extrêmement complexes et qui donnent lieu à des colloques entiers. Mais moi, je n'ai que quelques minutes pour répondre simplement à la question. Et pour ce qui est de la durée...
Il ment sous serment. C'est un parjure. Vous avez raison. Aha !
Alors moi, je ne fais pas de 2 minutes, je fais plutôt 3 ou 4 heures en moyenne. C'est pas du tout les mêmes formats. Voilà.
Bon, pour compléter la réponse, même si je ne vais pas être très original, je me considère aussi... Enfin, en fait, l'étiquette m'importe peu. Ça a été un long questionnement pendant quelques années, mais en fait, aujourd'hui, ce qui importe, c'est la perception de l'audience. Et la perception de l'audience, c'est que tous les trois, je crois, nous faisons un travail d'information grand public, parfois plus niche, parfois plus historique, parfois plus politique. Mais à la fin... L'étiquette importe peu. Pour la carte de presse, nous, on est en lien avec la commission de la carte et les journalistes qui travaillent pour l'équipe sont éligibles ou seraient éligibles à la carte de presse. Donc, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose. Ce n'est pas quelque chose qu'on a cherché à avoir avant parce que même aujourd'hui, la carte de presse, en vérité, bon, n'offre pas... C'est une vraie reconnaissance, mais les offres ne faisant pas... comme on ne fait pas de couverture de terrain de manif ou ce genre de choses, en fait, il y a assez peu d'avantages à avoir la carte de presse. Pareil pour la durée. Mes vidéos font en moyenne entre 25 et 55 minutes. Donc, en fait, c'est beaucoup plus long, souvent, que des sujets à la télé. Et ce qui est génial aussi avec...
Il y a Papy qui dit une bonne façon de dire qu'on s'en tamponne le coquillard de l'étiquette. Oui. Mais en même temps, l'étiquette, c'est aussi ce qui permet de faciliter la pensée. Ouais. Et pour les gens qui ne connaissent pas ce qui se passe en matière d'infos sur Internet, en fait, c'est rassurant de dire « Ok, alors lui, c'est quoi ?» Il est journaliste. Bon, ça marche pas, journaliste. Donc, c'est pour ça qu'il faut inventer de nouvelles étiquettes. Ouais. Pas pour enfermer les gens dans des cases, mais pour que ceux qui ne connaissent pas cet univers puissent comprendre finalement. Voilà. Moi, j'aime bien créateur de contenu d'information, par exemple, ou créateur de contenu spécialisé en information. Quoi. Alors, ce qui est drôle, c'est que Gaspard, comme Hugo, parle des cartes de presse qui manifestement ont certains de leurs salariés journalistes. Et cette carte de presse, c'est une carte de journaliste. Vous voyez ? Tout n'est pas simple. Donc, vous entendez le discours. Bon, nous, on n'est pas journalistes, c'est pas important, l'important, c'est ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on dit. Mais dans leur équipe, ils ont demandé que certains de leurs salariés journalistes aient la carte de presse. Et c'est une carte de journaliste professionnel. Vous voyez, comme quoi.
Les plateformes, c'est que on diffuse et on n'a pas de cases dans lesquelles rentrer. On parle parfois de magazines qui doivent absolument faire 52 ou 30 minutes à la télé ou sur le linéaire. Moi, tant que j'ai des choses à dire, je les dis. Et quand j'ai plus rien d'intéressant à raconter, je coupe la caméra. Et puis à la fin, ça fait le temps que ça devra faire. Et les gens y consacreront le temps qu'ils veulent. Mais à la fin, ce qui me semble intéressant de dire quand même, c'est que j'ai pas le sentiment que mon quotidien soit radicalement différent de celui de mes potes journalistes vidéo au Monde, à Libé ou au Figaro. Et donc, après, je pense que ça c'est une appellation qui est très protégée en France. Moi, mon grand-père était journaliste et je sais l'importance étymologique apportée à ce mot. Mais si vous allez au Royaume-Uni ou aux États-Unis, des journalistes qui sponsorisent avec des petits segments de pub des mecs qui travaillent pour la BBC, qui ont un podcast de News Agent, ou alors des journalistes comme Johnny Harris qui font des segments de vidéo et qui ont travaillé pour le New York Times, aujourd'hui, ils ne se posent pas la question de savoir s'ils sont journalistes parce qu'ils se diffusent sur Internet et qu'ils font des segments de publicité ou pas.
Oui, vraiment rapidement, avant de laisser les collègues, vous avez dit dans vos propos liminaires, je ne sais plus l'un de vous trois, surtout de l'accompagnement et pas de la contrainte. Vous vous êtes dit, les législateurs, là, ils peuvent avoir des idées. Il faudrait faire évoluer le cadre juridique, les aides à la presse. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas aujourd'hui pour pouvoir exercer votre activité ou pas, où il y a des asymétries réglementaires qu'il faudrait corriger. Voilà. Est-ce que, en tout cas, sur ces sujets-là, mais on a bien compris, accompagnement et non pas contrainte.
L'environnement législatif, il se crée au fil de l'eau. Moi, ce qui m'inquiète le plus, ce sont des tentations que je pourrais qualifier d'autoritaires qui consisteraient à confier à l'ARCOM un rôle qui serait... un rôle de Léviathan au-dessus d'Internet qui viendrait mettre son nez dans tous les contenus, dans tout ce que fait chacun pour imposer des règles, etc. Je pense que c'est contraire à l'esprit de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, dont on bénéficie toutes et tous. Et c'est pour ça que j'y suis sensible. Je pense qu'on a besoin d'aide sur les modèles économiques dont on a parlé tout à l'heure. Je trouve que les modèles économiques sont encore fragiles. C'est difficile de se lancer. Il y a besoin de structurer le soutien. Et notamment, j'en parlais tout à l'heure, je considère qu'il n'est pas normal que le CNC exclue de son aide ceux qui font de l'information. À un an d'une présidentielle, je ne trouve pas ça normal. Qu'on soit obligé d'aller se financer sur le marché privé.
Moi, j'aimerais juste reprendre un petit moment pour quand même redire cette anomalie, je crois, des 43 millions d'euros de taxes versées par Google et Meta au CNC. Et le CNC qui décide sciemment au sein d'une commission, et c'est la confession qu'on a eue avec l'UMIC, au sein d'une commission qui a été portée dans l'autre champ parlementaire à l'Assemblée nationale, et qui nous dit « Oui, mais attendez, nous, on flèche l'argent comme on veut, quoi. » Et donc, en gros, sur les 43 millions d'euros de taxes versées par Google et Meta, TikTok et Snapchat étant pas encore contributeurs, mais il faudrait que ça le devienne, hein, c'est important. Mais sur ces 43 millions d'euros de taxes perçus par le CNC, seulement 3 millions d'euros sont réfléchis vers les créateurs de contenu. Autrement dit, la taxe sur la création de valeur de Kaizen, le documentaire d'Inoxtag qui a fait 43 millions de vues sur YouTube, qui a ramené plein de jeunes au cinéma, etc., la taxe sur la création de valeur de Kaizen a servi et va servir à financer les bateaux du Comte de Monte Cristo 2. S'il doit y en avoir un d'eux, s'ils ont de l'imagination. Non, mais et ça, ça me paraît délirant. Aujourd'hui, je crois qu'une subvention doit accompagner des bébés et pas des supports qui sont vieux de plusieurs dizaines et dizaines d'années, des centaines d'années. Aujourd'hui, quand on parle d'exception culturelle française, ce qui est le rôle du CNC, eh ben, ce que nous faisons contribue à la culture française, ce que nous faisons contribue au paysage informationnel français. Et je crois qu'en ça, il faudrait le défendre. Par ailleurs, j'aimerais ajouter deux petites choses. Il y a une aide à la presse aujourd'hui qui existe pour les médias en ligne. Mais la contrainte de cette aide à la presse, c'est que c'est au prorata, c'est par rapport au prorata d'un nombre d'abonnements payants, donc le pourcentage d'abonnements payants sur votre chiffre d'affaires et votre modèle de revenus. Bon, aujourd'hui, on l'a dit, Jean, tes abonnés peuvent te donner un coup de pouce sur Twitch. Pour Hugo et moi, on se finance différemment. Donc du coup, on rentre pas en fait dans le cadre de ces aides à la presse. Et le dernier truc, parce que tu en parlais bien, Jean, et je voudrais repréciser moi un truc que je trouve intéressant sur l'ARCOM. Aujourd'hui, l'ARCOM sur le numérique, par exemple, le temps de réserve qui doit exister dans la campagne, où on dit, bon, allez, vendredi soir, les chaînes d'information terminées, on parle plus. Et samedi, dimanche, bah, on parlera du taux d'abstention, on parlera de la météo, etc. Et tout le monde doit un peu meubler. Bon, en fait, aujourd'hui, c'est assez ridicule avec la réalité de notre paysage informationnel, puisqu'on est tous branchés là-dessus, et que les politiques eux-mêmes, les candidats eux-mêmes, sont devenus émetteurs de contenu. Et donc, moi, sur le bureau de vote, je peux tomber sur un TikTok de Jean-Luc Mélenchon qui boit un sirop aux fraises, un truc aux fraises. Je peux tomber sur un Reels de Jordan Bardella qui m'explique pourquoi, machin, nanan. Donc, en fait, aujourd'hui, l'ARCOM et la régulation de l'ARCOM, ça me paraît très compliqué. Pareil sur... si l'ARCOM nous invite à contrôler et à donner un temps de parole égal à l'ensemble des partis politiques, ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon, qui est lui-même streamer, va devoir donner la parole à Jordan Bardella sur son stream, va devoir donner la parole à Valérie Pécresse, etc. Donc ça paraît un petit peu délirant. Et je crois qu'à travers l'UMIC, on a discuté avec les équipes de Martin Hajdari et on continuera de le faire parce que je pense qu'aujourd'hui, certaines contraintes de l'ARCOM sont inenvisageables à appliquer purement et strictement sur nos modèles.
Juste sur les périodes de réserve préélectorale, 48 heures avant le scrutin,
c'est intéressant, ça.
Avant 20 heures le dimanche, c'est bien une règle qui s'applique à tout le monde, y compris aux citoyens et surtout aux candidats. Et je sais que les partis politiques en font des caisses pour dire aux candidats, déconnez pas. C'est un motif d'annulation d'élection.
Là, Gaspard, vous avez parlé de clips... Mélenchon avec son lait fraise, je ne sais plus quoi. Ça, ce sont parce que ce sont des clips anciens, en fait. Ce qu'il dit, c'est qu'à un moment, quand on scrolle sur TikTok ou sur Insta, on peut tomber sur des vieux clips, mais on n'est pas sur des expressions de politiques ou de citoyens ou de journalistes sur le week-end, quoi. Donc, c'était un petit peu hors sujet. C'est ce qu'a voulu préciser Jean à l'instant.
Karine Daniel.
Merci, Monsieur le Président. On voit dans les propos que vous avez tenus qu'il y a finalement un continuum assez stable entre ce que vous faites et finalement les médias traditionnels avec le fait que vous employez des journalistes. Ça renforce ce continuum. C'est assez intéressant d'ailleurs de le voir. ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est la plus-value, et vous l'avez bien expliqué, de l'embauche de journalistes dans vos équipes. Ça, c'est très important. Mais moi, j'aurais une question pour aller peut-être un peu plus loin. Est-ce que vous pensez que vos formats, vos contenus ont influencé la presse et les médias traditionnels?
Pardon, pour préciser, en matière de format, on met sur le fond, sur...
En matière de format, sur le fond, et on a un enjeu aussi qui nous préoccupe beaucoup ici, c'est sur les questions de désinformation.
Je pense que ce qu'on a pu faire au fil des années a pu inspirer potentiellement d'autres médias, et tant mieux. Je pense que si on parle de YouTube, par exemple, je souhaiterais qu'il y ait peut-être encore davantage de médias qui aillent sur ces plateformes-là, qui fassent ce travail d'information sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est absolument indispensable. Nous, on peut faire des choses. On a aujourd'hui sur YouTube, parce qu'on parlait de YouTube, un format d'actualité au quotidien de 10-15 minutes. On se plonge dans un sujet en profondeur. On a des formats d'interview. On peut interviewer des politiques. On peut interviewer des journalistes sur des sujets. Je repense à ce qu'on a fait récemment, une interview de Fabrice Arfi sur l'affaire Nicolas Sarkozy-Kadhafi. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est quasiment 2 heures d'interview. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu d'autres cadres où il a pu faire comme ça 2 heures d'interview avec des millions de vues sur les réseaux sociaux pour informer sur ce sujet-là. Donc cet enjeu d'information, on peut le faire sur les réseaux sociaux. Et tant mieux que d'autres médias l'investissent. Ça a pris un peu de temps peut-être au départ, parce que pour plein de raisons, des questions de modèle économique, des questions de gens qui n'y croyaient pas, qui se disaient tel ou tel format va continuer à exister. Mais il y a des choses à faire, et tant mieux si on... Ils y vont aussi, tant qu'encore une fois, c'est pour apporter ce même travail-là.
Rebond sur la période de réserve dont on parlait, parce que je trouve qu'il y a un commentaire très intéressant de Greenlog dans le chat. Si un politicien sort directement ou indirectement, via lui ou via un média, une vidéo, par exemple, 49 heures avant le dimanche 20h, donc une heure avant la limite du vendredi soir qu'évoquait Jean Massier, ça pose aucun problème. Hein. Or, la vidéo sera progressivement poussée par les algos, par l'algo, voilà, est vu dans les 2 jours, samedi, dimanche, par les gens, par les citoyens, par les électeurs, ce qui aura possiblement un impact sur l'élection, et ça, c'est pas du tout régulé. C'est une vraie bonne question.
Oui, je pense que c'est effectivement, alors sans vouloir m'envoyer des fleurs, j'ai été un pionnier sur Twitch, en l'occurrence, de vulgarisation d'actualité politique. J'ai été un des premiers créateurs de contenu à ne pas faire de jeux vidéo. La première fois qu'un stream Twitch a été diffusé sur une chaîne de télévision, c'était en France.
Pardon, et qui n'est dit comme les journaux de la veille. Oui, mais finalement, il y a sans doute plus de chances que des gens qui tombent sur une vidéo poussée par l'algo, qui peut massivement fonctionner parce que le propos serait choquant ou fort, par exemple, voilà. Certains partis en sont les spécialistes, que de lecteurs qui vont dimanche lire le journal du vendredi, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? En termes d'influence, c'est pas le même débat. Pardon, j'ai interrompu Jean qui disait qu'il avait un petit peu été un précurseur.
Et c'était Public Sénat. Ça a estomaqué les dirigeants de Twitch à San Francisco, d'ailleurs, c'était très drôle. C'est vrai que beaucoup de médias essayent de se lancer sur Twitch, ou ont essayé de se lancer sur Twitch. Très peu ont réussi. C'est extrêmement chronophage, on n'y gagne pas d'argent. Les deux meilleurs exemples que j'ai, c'est la chaîne Arte, qui a une programmation spécifique Twitch, et qui s'appuie sur des créateurs de contenu de la plateforme, et ça marche.
Très bien.
Et la deuxième chaîne, c'est l'Humanité, le journal L'Humanité, qui a mis beaucoup de moyens depuis un an et demi maintenant.
Libé aussi. L'Huma et Libé aussi. Mais l'Huma aussi, ouais.
Dans des émissions ambitieuses, dans des talk shows en plateau, dans des streams d'actualité qui fonctionnent assez bien. Les autres médias, Mediapart a diffusé à l'air libre pendant assez longtemps sur Twitch. Libération fait aussi quelques streams de temps en temps. C'est un peu plus confidentiel, mais on sent qu'il y a une...
Libé fait moins d'audience que l'Huma, peut-être. Peut-être que... Ok. Peut-être. Il parle pas d'RMC, je pense. Il y a RMC. Je pense qu'il parle pas de RMC. Parce que c'est pas de l'info, en fait. Le RMC a une chaîne Twitch qui fonctionne bien, mais je crois pas que ce soit de l'info. Et Mediapart, alors oui, mais alors Jean vient de dire que Mediapart sur Twitch, c'était confidentiel, en termes d'audience. Hein. Alors après, que Libé fasse moins que l'Huma, peut-être. J'ai pas vu les chiffres récemment, peut-être.
Volonté de se lancer. De toutes les manières, la distinction entre nouveaux médias et anciens médias n'existe de pratiquement plus. Maintenant, on est sur des médias incarnés dans les médias traditionnels. Les chaînes de télévision sont sur des stratégies web first. Elles diffusent sur Internet d'abord, puis sur le vieux canal TNT. Les nouveaux médias comme on est nous, on commence à être anciens, nous aussi, à notre échelle. Ça tend à s'atténuer avec le temps.
Monique.
Alors, moi, j'ai une question un peu délicate, je ne sais pas. Donc, vous n'êtes pas assujetti donc au pur... Oh, je me suis trompée de micro, ça commence bien. Vous n'êtes pas assujetti donc de respecter le pluralisme. Et je m'interroge à savoir si vous considérez comme influence...
Pas plus que les médias de presse écrite, hein, je le rappelle, qui ne sont pas assujettis au pluralisme, c'est-à-dire obligés de donner la parole à tout le monde. Voilà, c'est juste les télévisions, parce qu'il y a une époque, je vous l'ai déjà expliqué, à une époque, il n'y avait qu'une chaîne de télé, donc il était normal que cette chaîne soit assujettie à un pluralisme. Puis après, il y a eu deux chaînes, trois chaînes, il y avait très peu de chaînes, très peu de grosses chaînes, très peu de grosses radios, et c'était normal qu'il y ait les règles, quoi. La presse écrite n'a jamais été assujettie à ces règles, voilà, et Internet ne doit pas l'être non plus, bien sûr, quoi.
Créateur de contenu, et quelle différence vous faites entre les deux ?
En fait, je vais parler pour moi, mais j'ai le sentiment que créateur de contenu, c'est ce qu'on fait, et l'influence, c'est la conséquence de cette création de contenu. La création de contenu, c'est notre métier. Après, j'invite aussi à une précision sémantique de plus en plus, parce que pendant longtemps, les médias, et c'est pas grave, hein, c'est comme ça, c'était un truc nouveau. En France, ils disaient, Hugo Décrypte est influenceur, Jean Massier est influenceur, Nabila est influenceuse. Ouais. Et c'est un peu comme dire, Nabila et David Pujadas, ils sont à la télé, donc ils sont animateurs télé tous les deux. Je pense qu'il y en aurait un des deux qui aurait fait un peu la tronche. Et je pense que, j'invite à cette précision sémantique. Je crois que l'influence, c'est le résultat, et la création de contenu, c'est ce qu'on fait.
C'est pas mal ?
Non. Vous faites référence aux règles d'égalité et d'équité du temps de parole des candidats ? D'accord. Il faut y répondre à cette question parce que je sais que c'est une question qui remonte. La question de faire respecter l'égalité et l'équité du temps de parole des candidats à la présidentielle ou aux élections sur Internet est une question qui n'a pas de sens.
Ah, merci Jean.
C'est pas qu'elle est bonne ou qu'elle est mauvaise comme idée, c'est juste qu'elle n'a aucun sens. Parce que les règles d'égalité et d'équité de temps de parole n'existent qu'à la télévision et à la radio pour des raisons pratiques, pour des raisons physiques. La télévision et la radio sont les seuls médias qui ont un nombre de canaux limités qui sont attribués par l'ARCOM, et on ne peut pas créer de chaînes de télévision supplémentaires ou de stations de radio supplémentaires. Donc les candidats peuvent se retrouver en situation de ne pas du tout avoir accès au médium si jamais ils sont boudés par les chaînes. C'est pour ça qu'on a inventé les règles d'égalité et d'équité du temps de parole. Dans la presse écrite et sur Internet, on est dans des médias à canaux illimités. Ça ne coûte pas plus cher de créer un média supplémentaire. Donc,
Jean dit la même chose que moi, mais il le dit beaucoup plus clairement. Merci mon Jean.
Le candidat ou la candidate qui est insatisfaite et qui souhaiterait s'exprimer peut le faire en créant sa propre chaîne. Donc elle ne peut pas réclamer d'avoir du temps de parole sur les chaînes des autres.
Moi, je voulais parler un peu des jeunes, puisque vous avez dit les uns et les autres, en tout cas au démarrage de votre activité, il y avait une cible très clairement identifiée, c'était les jeunes, et une meilleure pédagogie de l'information par rapport aux jeunes. Qu'est-ce que vous avez apporté justement aux jeunes, ou qu'est-ce que vous apportez encore aux jeunes que les médias, même si vous venez de dire qu'il n'y avait plus de distinction, mais enfin, pour simplifier le propos que je vais utiliser, que les médias traditionnels ne font pas à destination de ces publics jeunes
Pour dire les choses simplement, de l'information. Et ce que j'entends par là, c'est que, évidemment, ces médias plus traditionnels informent au quotidien. Et ils ont des centaines de journalistes qui sont extrêmement compétents, qui font un travail qui est très important. La question, encore une fois, c'est la question que j'évoquais au départ, du fond et de la forme. La forme, c'est être présent sur ces réseaux-là. Parce qu'en fait, c'est des choses. Moi, je me souviens que quand j'ai lancé ma chaîne donc sur YouTube il y a 10 ans, j'avais quand même des journalistes qui me disaient, mais ça va pas forcément tenir parce que ces jeunes-là, là, toi, t'as 18 ans, mais tu verras dans quelques années, tu vas t'informer différemment. Tu vas pas aller sur YouTube pour t'informer, tu vas aller sur...
Ça, c'est génial. Et finalement, les jeunes, ils sont pas venus à la télé, ils sont pas venus à la radio.
Ouvrir un journal papier ou autre. Et donc, cette question d'être présent là où les jeunes sont, c'est déjà un enjeu d'un point de vue démocratique qui est absolument essentiel. Et sur le fond, encore une fois, pour moi, c'est au moins aussi important, voire beaucoup plus important... Il y a un enjeu de s'assurer que les sujets, quand on les traite de façon accessible. Et ça vaut pour un sujet de 2 minutes, comme ça vaut sur un sujet d'une heure et demie. Un sujet accessible, ça ne veut pas dire faire quelque chose de simpliste, faire quelque chose de réducteur, faire quelque chose de je ne sais quoi. Ça veut dire simplement, quand on traite un sujet, on veut qu'il soit compréhensible et accessible pour quelqu'un qui s'y intéresse pour la première fois. Et même quand on fait une longue interview avec, je parlais tout à l'heure de Fabrice Arfi, d'un journaliste de Mediapart qui a enquêté pendant des années sur un sujet que lui, il maîtrise sur le bout des doigts, et que c'est un sujet qui est quand même assez dense et assez... ils ont même fait un documentaire parce que tellement les gens avaient du mal à saisir le sujet. Nous, on estime que même sur 2h30 d'interview, faut que cette interview de 2h30 ou 1h30, je ne sais plus, qu'elle soit compréhensible, claire, et qu'on y comprenne quelque chose, même si on s'intéresse au sujet pour la première fois. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui est pas toujours valorisé, il faut le dire, dans toutes les rédactions. Je pense qu'on a souvent tendance à valoriser le scoop, à valoriser l'exclusivité. J'ai eu telle personnalité politique le matin, j'ai eu telle petite phrase qui est ressortie. On n'a jamais un retour de quelqu'un qui va dire « bravo, là, c'était parfaitement clair ». Pour la simple et bonne raison aussi que ce lien avec la communauté ou l'audience est beaucoup plus compliqué. Si vous êtes une radio le matin, un chroniqueur qui a fait une chronique extrêmement claire de 2 minutes 30 ou un chroniqueur qui a fait une chronique qui est incompréhensible, comment est-ce qu'on va l'entendre ? On va éventuellement avoir peut-être quelques courriers des lecteurs qui vont arriver dans les prochains jours, mais est-ce qu'ils sont vraiment lus ? Est-ce que vraiment ça remonte jusqu'au chroniqueur en question ? Voilà, nous on a la chance d'avoir des contenus qui sont faits sur les réseaux. Si des gens nous disent « c'est pas clair » ou « j'ai pas compris, il y a telle chose qui n'est pas claire », on est capable d'y répondre, on est capable de faire ce travail-là.
Hugo vient de mettre le doigt sur quelque chose de très important, c'est-à-dire que quand tu fais du contenu sur Internet, tu es à portée de baf. Tu es ton public va commenter instantanément, alors en live sur Twitch, mais instantanément sous la vidéo YouTube que tu viens de poster, ton avis, ton commentaire sur le contenu, que ce soit du divertissement ou de l'information. Voilà. Dans les médias traditionnels, les chaînes reçoivent une lettre de temps en temps, un mail, mais la sanction du public, elle est très lointaine finalement. Et ça, c'est formidable pour améliorer la qualité du travail des créateurs de contenu sur Internet, parce que vous avez votre public qui réagit en direct à ça. Ce n'est pas seulement une pression. Ce n'est pas seulement une... Pourquoi ? Julo, tu supprimes tes propres messages. Julo s'est modéré lui-même. Voilà, Twitch est un endroit incroyable où les modérateurs se modèrent eux-mêmes. Alors, c'est une forme de pression, hein, mais c'est une aide aussi. C'est une énorme aide. C'est-à-dire que vous nous aidez, enfin là je parle de vous parce qu'on est sur Twitch, à créer un contenu de qualité, parce que quand on fait un truc qui est un peu raté ou qui est pas clair ou qui est pas fameux ou qui est pas, eh bien on a le résultat instantanément. Pourquoi par exemple hier soir l'émission qu'on a fait le quiz avec les amis là avec Domingo, avec Baguera, avec Enjoy Phoenix, avec Kevin Tran et avec Thomas Dezer, pourquoi l'émission a été réussie? Parce que quand on avait fait le numéro 1 il y a un an, on avait lu les réponses, notamment sur le replay YouTube, qui disaient bon, l'émission était cool, mais par contre, au niveau de la mécanique, c'était parfois un petit peu touffu. Au niveau des questions, elles étaient trop dures. Et on avait, avec les gens qui ont pensé l'émission, on a vraiment décortiqué toutes les réponses. Et ça nous a permis d'améliorer l'émission et de faire l'émission qu'on a fait hier soir pour l'exclamation cash, CASH pour le replay. Et c'est ce qui nous a aidé à faire mieux. Donc ce que souligne Hugo est hyper important. Et les médias traditionnels, eux, n'ont pas ça. Et en plus, sur YouTube et sur Twitch, tout le monde peut parler. Alors que les quelques lettres ou les quelques mails que vont recevoir les chaînes de télé ou de radio, non, cache comme moulin. En fait, c'est souvent les plus énervés ou les plus motivés, et c'est pas forcément tout le monde, quoi. Donc, il y a aussi le fait que les avis vont être divers, vont être multiples. Voilà. C'est là où pour les médias traditionnels, c'est très très dur, et que parfois ils tapent un peu à côté de la plaque de l'air du temps, finalement. De l'air du temps. Parce qu'en fait, la difficulté aujourd'hui pour une télévision, par exemple, pour parler que de télé, c'est de penser un programme qui va être dans l'air du temps de ce que les gens ont envie de voir, d'entendre, en termes d'ambiance, d'écriture, de ton, etc. Voilà. Donc parfois, certains arrivent à raisonner totalement avec l'air du temps, voire même de l'anticiper un peu et de surprendre, parce que c'est ce qui va être fort dans quelques mois ou quelques années après. Hein. Mais la plupart du temps, ils peuvent avoir assez facilement un temps de retard. Alors que sur Internet, si tu proposes un truc qui est totalement que les gens ne veulent pas voir, les gens vont te le dire instant. Et ça, c'est un avantage incroyable.
Et je terminerai en disant qu'on est aussi amené à travailler avec d'autres médias, des médias notamment qui font de l'enquête. On est amené à travailler avec certains médias parfois qui ont travaillé pendant des années sur un sujet, qui nous disent « on a travaillé sur ça, on a telle révélation qu'on va faire, on a un enjeu de pédagogie dessus, on a un enjeu à le rendre accessible. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte de travailler ensemble et porter ce sujet au-delà ?» Dernière chose, et après je m'arrêterai là. On fait certes cette dimension pédagogique sur un certain nombre de formats. On fait aussi nous-mêmes maintenant des formats de terrain, des formats de reportage, des formats d'enquête. On a des journalistes locaux, on le disait tout à l'heure, qui font ce travail, qui rapportent des informations, de plus en plus souvent des informations exclusives qu'on ne voit pas dans d'autres médias. Donc voilà, c'est aussi une évolution qui a pu se faire au fil du temps. Je n'aurais pas pu faire ça au début, évidemment, faute de moyens, mais qu'on a pu développer au fil des années.
Moi, je pour.
Vous savez pourquoi il est énervant, Hugo Décrypte ? Vous savez pourquoi il est. Je vais vous dire, moi, pourquoi il est énervant, Hugo Décrypte ? Parce que le mec a quand même une tête sympa, quoi. Hein ? Mais oui, parce qu'il est beau gosse, parce qu'il s'exprime bien, mais même quand t'es pas d'accord avec lui, t'as envie d'être d'accord avec lui. Hein ? Il est. Le mec a l'air incapable d'une once de méchanceté, quoi. C'est énervant, c'est énervant.
Compléter le propos, Hugo, je suis raccord avec toi. Sur, je crois que la rupture d'usage en matière de consommation médiatique, elle est consommée, on ne reviendra pas en arrière. Mmh. Et je pense que pendant...
Mais je suis d'accord, il est louche, il est trop parfait. Il cache un truc. Un truc enterré dans son jardin, je ne sais pas.
À un moment donné, les producteurs et les dirigeants des chaînes de médias se sont dit « Bon, c'est sympa là ce qui se passe sur Internet, mais ils vont revenir nous voir. »
Je reviens en arrière parce que ce que est en train de dire Gaspard est essentiel et je l'ai coupé avec ma bêtise là. Ouais, écoutez ce que dit Gaspard.
En matière de consommation médiatique, elle est consommée, on ne reviendra pas en arrière. Mmh. Et je pense que pendant un moment donné, les producteurs et les dirigeants des chaînes de médias se sont dit « Bon, c'est sympa là ce qui se passe sur Internet, mais ils vont revenir nous voir. » Ça n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui, ils sont forcés un petit peu de s'adapter. Moi, j'ai des patrons de chaîne qui m'ont appelé alors qu'ils m'avaient refusé en stage 5 ans avant. Et je pense que c'est le meilleur reflet de cette inversion des rapports du rapport de force sur les moins de 35 ans. Peut-être un mot aussi. Depuis tout à l'heure, on parle des jeunes. Moi, honnêtement, si je passe devant un lycée, là, il ne se passera rien du tout. Hein. Personne qui me reconnaît, etc. Les lycéens, ils s'en foutent total de ce que je raconte.
Moi, je suis pas sûr de ça.
L'âge médian de ma chaîne YouTube aujourd'hui, c'est 30 ans. Ça veut dire qu'il y a 50% des gens qui ont moins de 30 ans, mais 50% des gens qui ont plus de 30 ans aussi. 13 à 17 ans, je sais pas ce que vous faisiez. Remarque, vous êtes sénateur, donc vous deviez déjà avoir un intérêt fort pour la chose publique. Mais moi, de 13 à 17 ans, je m'informais pas au quotidien sur les enjeux géopolitiques. Je regardais pas les sessions parlementaires, certainement pas.
Jean, à 5 ans, il regardait les émissions politiques.
Voilà, donc je pense que c'est important aussi de bien avoir en tête, vous qui êtes législateur, que c'est une part des Français qui ont progressivement rejeté les médias traditionnels, les médias mainstream, pour pouvoir aller chercher une autre grammaire de forme, de fond sur Internet. Et Hugo le disait très bien, je crois que l'accessibilité est au cœur de tout ça, la pédagogie avec laquelle qui se retrouve dans chacun de nos contenus. Nous sommes vulgarisateurs chacun de notre manière, il y a des super vulgarisatrices aussi. Et ça, c'est important. Et je pense que, Hugo, tu l'as dit aussi un petit peu, moi je dirais de manière peut-être un peu plus frontale, je pense qu'il y a beaucoup de médias qui se sont d'abord parlé entre eux, en fait, entre 2000 et 2010, 2015, qui se parlaient entre journalistes, etc., mais qui ne faisaient peut-être pas assez l'effort d'aller chercher des gens. Peut-être que certains contenus était inaudible et que cet effort de pédagogie, d'ailleurs, on le voit de plus en plus au journal télévisé, on réexplique les choses, la vulgarisation fait partie du cœur de la stratégie des médias depuis peu. Voilà, je pense que cette accessibilité y est pour beaucoup.
Sylvie. Oui.
Ils sont incroyables, les trois, là. Ils sont incroyables, les trois.
Rapidement, parce qu'on va rester quand même jusqu'à ce soir avec vous, mais c'est passionnant. Hugo Travers, vous avez dit quelque chose de très important parce que c'est en fait la dernière question que je souhaitais vous poser à tous les trois. Mais...
Donc d'un côté, on a des sénateurs, des sénatrices qui posent des questions pertinentes, fondées, travaillées, qui disent « Ah, c'est intéressant, c'est passionnant, mais j'aimerais comprendre. » Et puis nous, pendant des semaines, on a eu le droit à... nous, on a eu le droit à...
Je vous remercie pour votre réponse.
Ah, ou à...
Pardon, soyons factuels, s'il vous plaît.
Ah, putain la vache, putain. Mais comment on a pu supporter ça quand on regarde ça maintenant? Comment on a pu supporter ça pendant des heures, quoi, hein? 234 personnes auditionnées, quoi. Ça a duré 6 mois, 4 mois au total quand on enlève les pauses, quoi. De ça...
Je vous remercie pour votre réponse.
Et de ça...
Pardon, soyons factuels, s'il vous plaît.
Ou de ça...
Mais Jérémy, franchement, mais qu'est-ce que tu fais, là?
Et ça?
Mais fais un tweet si tu veux, si ça t'amuse.
Waouh! Merci le Sénat.
particulièrement à vous parce que vous avez en partie répondu. Je me posais la question de, non pas de la forme, mais du fond et donc de la source, la matière. Et vous avez dit, effectivement, il y a une évolution, c'est que maintenant on est sur le terrain. Avant, et je ne sais pas comment vous vous nourrissez, c'est-à-dire cette matière au-delà de regarder les réseaux sociaux, de voir un peu ce qui est d'actualité, ce qui est aujourd'hui dans le débat public, etc., c'est que maintenant, on va sur le terrain, on peut avoir peut-être de l'investigation sur de l'enquête et tout. Est-ce que ça vous demande plus de moyens ou des formes d'organisation différentes? J'imagine que oui, mais est-ce que vous avez pris ça en compte et est-ce que c'est une évolution que vous comptez continuer à approfondir? Merci.
Non, effectivement, c'est un très bon point. D'abord, c'est des choses que... C'est-à-dire que, évidemment, on va parler des reportages, l'enjeu du terrain, etc. C'est évidemment quelque chose d'important. Pour autant, la dimension quand même de vulgarisation n'est pas non plus à jeter ou n'est pas... Elle reste aussi essentielle. Et quand, à l'époque, c'est vrai que je faisais des vidéos sans être sur le terrain, mais à simplement essayer de m'expliquer, OK, il y a une guerre civile en Syrie avec une situation qui est dramatique. Comment est-ce qu'en 5-10 minutes, c'était plus court à l'époque, aujourd'hui on fait des formats beaucoup plus longs, mais comment est-ce qu'en 5-10 minutes, je peux essayer d'expliquer dans les grandes lignes ce qui se passe? Oui, ce n'était pas des informations nouvelles, voilà, mais c'était une approche qui était nouvelle qui permettait une vulgarisation importante. Maintenant, sur le terrain, je considère que oui, c'est important. Ça demande évidemment beaucoup plus de moyens. Dans le développement de la chaîne, elle a 10 ans maintenant, quasiment 11 ans maintenant. Merci. À l'époque, je faisais ce que je pouvais faire et j'étais tout seul. J'avais une caméra, donc je n'avais pas les moyens d'aller sur le terrain. J'avais juste les moyens d'essayer d'expliquer les choses parce que ça demandait mon temps et entre guillemets seulement mon temps, donc c'était possible. Aujourd'hui, on est en mesure de le faire. On en revient du coup à la question du financement. C'est là où l'enjeu il est crucial. C'est que on a aujourd'hui en ligne, moi je le vois, je parle avec un certain nombre d'entre eux, des journalistes qui quittent parfois des médias traditionnels parce qu'ils se disent à juste titre l'avenir c'est sur les réseaux sociaux, c'est là qu'il faut informer, il y a un enjeu démocratique qui est essentiel, pas que pour les jeunes, on en a beaucoup parlé, mais faire du terrain ça coûte cher, faire de l'enquête ça coûte encore plus cher parce que parfois c'est des mois voire des années pour obtenir rien du tout parce que finalement c'est une fausse piste ou je ne sais quoi. Donc on en revient à la question du financement et dans le cas, il me semble que vous avez eu Mediapart tout à l'heure, eux, je pense, et quoique je ne répondrai pas à leur place, ils ont sûrement des enjeux économiques très importants, mais ils ont une possibilité d'abonnement très important parce que les gens soutiennent leur travail et ils le sentent, ils le voient comme ça.
Non, parce que le travail de Mediapart, il est fou. Hein. Regardez, on a suivi l'actualité sur Patrick Bruel avec la justice française et la justice belge qui viennent d'ouvrir des enquêtes, et c'est sûrement lié au travail de Mediapart sur le sujet, et c'est une enquête qui a duré des années, quoi. Donc le modèle de Mediapart, il est assez fascinant. Ouais. Il est assez fascinant. Média sans publicité, qui ne vit que des abonnements de ses lecteurs, parce qu'effectivement, comme le rappelle Hugo, ce sont des lecteurs qui croient dans une information de qualité et qui ont décidé de la soutenir financièrement. Après, ça, c'est un très beau modèle, c'est un modèle vertueux, mais c'est un modèle qui n'est pas reconductible à l'infini parce que les gens ne peuvent pas payer de leur poche X médias comme ça, hein, si on vous demande de payer... voilà. Et donc, ça ne peut pas se reproduire à l'infini, mais c'est bien que... qu'il y en ait, quoi. Et que ça marche économiquement. Hein.
Mais quand on est sur des médias en ligne avec cette volonté d'être accessible au plus grand nombre et donc d'avoir un contenu qui est gratuit, là, effectivement, ça peut être plus compliqué. Et donc, il y a un enjeu d'accompagnement. Et je pense surtout, encore une fois, aux journalistes qui se lancent, qui font un travail aujourd'hui qui est vital, qui sont tout seuls parfois ou ils ont une personne avec eux. Ils font un travail vital, ils informent des centaines de milliers de personnes et ils sont pas accompagnés.
Si je peux me permettre, pour préciser un peu, moi, de notre côté, à chaque fois qu'on fait de l'enquête, on produit 3 à 4 grands formats d'enquête par an. Celui de la chlordécone, par exemple, a coûté 43 000 euros. Celui sur OnlyFans a coûté 68 000 euros. Sur le documentaire OnlyFans de 68 000 euros, j'ai eu un sponsor qui a donné 20 000 euros. Donc, j'ai fait une minute de partenariat publicitaire, 20 000 euros. Et puis, derrière, en fait, j'ai appris que la vidéo n'était pas monétisée sur YouTube parce que ça parlait d'OnlyFans. Et du coup, ce n'était pas annonceur friendly. C'est aussi ça, la réalité diffusée sur les plateformes. Donc, autrement dit, le calcul est simple, j'ai perdu 48 000 euros sur cette enquête. Ce n'est pas grave parce que derrière, j'ai d'autres vidéos qui sont rentables. Mais tout ça, c'est une économie qui est encore quand même très, très, très fragile. Tout à l'heure, j'énonçais des faits à votre demande, Madame la rapporteure. 5 000 euros de résultat net. J'ai vérifié. C'est le résultat net de ma structure éditoriale l'année dernière. Voilà. Donc, je n'ai pas de voiture. Je suis pas...
Pardon, je réponds à un commentaire et je reprends. Réécoutons là. Ça parle un peu des chiffres, c'est intéressant.
C'est aussi ça, la réalité diffusée sur les plateformes. Donc, autrement dit, le calcul est simple, j'ai perdu 48 000 euros sur cette enquête. C'est pas grave, parce que derrière, j'ai d'autres vidéos qui sont rentables. Mais tout ça, c'est une économie qui est encore quand même très, très, très fragile. Tout à l'heure, j'énonçais des faits à votre demande, Madame la rapporteure. 5 000 euros de résultat net. J'ai demandé, j'ai vérifié, c'est le résultat net de ma structure éditoriale l'année dernière. Voilà, donc j'ai pas de voiture, je suis pas propriétaire, je suis pas encore...
5 000 euros de résultat net ? Vous avez entendu la même chose que moi ? 5 000 ? L'entreprise ?
5 000 euros de résultat net. J'ai demandé, j'ai vérifié.
Ok.
C'est le résultat net de ma structure éditoriale l'année dernière. Voilà, donc j'ai pas de voiture, je suis pas propriétaire, je suis pas encore à Ibiza avec d'autres influenceurs de télé-réalité. Elle est pas là, la réalité de notre économie et de notre...
Oui, vous avez raison. Après, salaire, sans doute. C'est-à-dire qu'il se verse... non, 5 000, c'est le résultat net, c'est-à-dire le bénéfice de fin d'année de son entreprise, après son bilan, mais après s'être versé un salaire, je l'espère pour lui. Je l'espère pour lui.
Création de valeur sur Internet. Par ailleurs, j'aimerais...
Mais il n'a pas donné son salaire, et je le comprends bien. En France, c'est très compliqué à faire.
J'aimerais rappeler... La créateur économie, l'économie des créateurs, c'est des Français, c'est une vraie réalité aujourd'hui. Il y a 300 000 créateurs de contenu en France et 150 000 qui le font de manière semi-professionnelle. C'est énorme. Et autour d'eux, plein d'autres métiers, souvent invisibilisés, des monteurs, des monteuses, des chargés de prod, des journalistes parfois. Et c'est une économie qui se structure sous nos yeux. Et si l'audience délaisse progressivement les médias traditionnels, le corps de travail, les ressources, le corps de travailleurs aussi et de travailleuses, voilà, délaissent aussi progressivement les structures existantes pour aller vers des nouvelles structures et leur faire confiance. Voilà, on est tous aujourd'hui d'une manière ou d'une autre employeurs et je crois que du coup la question des aides est particulièrement intéressante et mérite d'être soulevée au fur et à mesure de cette professionnalisation.
C'est une question importante qui est celle effectivement du modèle économique parce que nous sommes des créateurs de contenu d'information. Nous avons donc moins facilement accès au marché publicitaire parce que les annonceurs n'ont pas toujours très envie d'être affichés en même temps que nous. Moi, si j'ai envie de créer une émission pour parler des élections sénatoriales, je ne vais pas réussir à trouver de financement. Je n'arriverai pas à trouver une boîte qui va me dire « Ah, super, les sénatoriales, j'ai envie de financer, c'est génial. » Ça va. Voilà. Non, c'est difficile. Les gens ne veulent pas...
Jean, il a un modèle économique très compliqué. Jean, non, mais... je vois, ça rigole, mais c'est très compliqué, Jean, parce que lui, il est vraiment, vraiment spécialisé info politique. Alors pour le coup, c'est pas le truc le plus facile à brander, quoi. Voilà, d'où la difficulté qu'il a pour financer une émission ambitieuse comme Backseat, qui est une émission géniale. Et c'est très compliqué à brander, quoi.
Les entreprises ne veulent pas financer des contenus qui sont des contenus d'intérêt général, ce qui parfois peut être aussi problématique du point de vue des algorithmes.
Oui, Jean a du mal à brander. Alors, vous aurez noté que j'ai articulé, enfin, j'ai très bien articulé, voilà. Jean a du mal à brander. Il brande mou, oui. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement bien dit. Il faut dire, vous pouvez réécouter en boucle et en boucle, j'ai été très clair. Ouais. Vous êtes con, hein.
Ou parfois, des sujets peuvent être moins poussés que d'autres. Il avait été démontré il y a quelques années qu'une jeune femme qui fait une vidéo YouTube pour parler des règles sera moins mise en avant qu'une jeune femme qui parle de maquillage. Et ça pose aussi des questions sur l'intérêt général du sujet qui est abordé, sur des sujets, en l'occurrence, de santé, de prévention, qui peuvent être importants. Quand on parle de santé sexuelle, attention, parce que nos amis américains ont des règles de pudibonderie extrêmement strictes, qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas dans notre culture, sauf qu'on est obligé de se plier à ces règles-là. Donc, pour l'instant, en politique, on s'en sort pas trop mal, malgré effectivement ce qu'on a pu dire tout à l'heure sur X et sur le risque de ces foudingues de la Silicon Valley. Mais sur d'autres sujets, des sujets d'intérêt général, ça peut poser un vrai souci. Donc voilà, il y a cet aspect qui est celui du modèle économique et puis il y a cet aspect qui est celui des algorithmes.
D'habitude, c'est Sylvie qui pose la question, mais je crois que tu ne l'as pas posée sur la labellisation. Justement, ce que vous dites à la fois sur le nombre...
la labellisation, donc si je dis pas de bêtises, du côté de... du président Macron lui a prêté cette intention de créer un label pour les créateurs de contenu d'information, c'est ça, qui serait donné par qui, on ne sait pas, aux créateurs de contenu dont on estime que le contenu est de qualité. Donc ça, c'est extrêmement dangereux.
Impressionnant, 300 000 créateurs de contenu, et puis ce que vous venez de dire sur le fait que certains sujets d'intérêt général sont plus difficiles à mettre sur Internet. Est-ce que pour aider ce contenu informationnel, ces créateurs de contenu informationnel, il faut aller jusqu'à une labellisation ? Quelque part, vous êtes déjà une marque ou un nom, les uns et les autres.
Quelqu'un me demande, est-ce que tu veux être labellisé ? Non, moi, je ne veux pas être labellisé, moi. Non, je ne veux pas de label, moi. Le label, c'est pour le fromage, c'est pour ce que vous voulez, mais je pense pas qu'il faille de label pour l'information. La glissade, le dérapage peut arriver très, très vite, quoi. Les pouvoirs politiques changent, les majorités changent. Voilà, demain, il y a une majorité politique qui arrive et qui dit, bah voilà, moi, très bien, le label, là, mais on va pas le donner à tout le monde, hein, vous voyez ce que je veux dire ? Hyper dangereux.
Je pense que... je vais essayer de répondre le plus clairement possible. Le sujet central, c'est pourquoi faire. Et ce que j'entends par là, c'est que si c'est pour accompagner et aider des créateurs ou des médias, ou bref, on en revient à cette question de la terminologie, déjà, bon courage pour essayer de catégoriser correctement les choses. C'est-à-dire que là, on est tous les trois, on a la chance d'être très suivis, mais moi, quand je me suis lancé il y a 10 ans, j'avais zéro abonné. Du coup, quoi, je ne suis pas labellisé dans ce... Et les avantages potentiels de cette labellisation, je ne peux pas en avoir droit parce que, à l'époque, j'avais 5000 abonnés. Pour autant, mon travail, il était moins bien fait peut-être, mais il était tout aussi sérieux sur le fond. Donc, il y a une question déjà de pourquoi faire. Et de la même façon, dans l'autre sens, si on se dit une labellisation pour distinguer les bons des mauvais acteurs, ok, mais là aussi, encore une fois, pourquoi faire ? C'est-à-dire que le rien n'empêchera quelqu'un...
Et selon quels critères, surtout ?
De se dire, mais je m'en fiche, je ne vais pas être labellisé, je vais pouvoir faire mon contenu. Et la question qui peut venir derrière, c'est de se dire, oui, mais on va labelliser des gens pour les mettre davantage en avant. Ça, moi, je ne suis pas favorable. Je reviens à ce que j'ai dit à l'instant. À l'époque, je n'aurais pas été labellisé en me lançant. Et plus largement, je veux dire, ça peut être un puissant fond de labellisation de tous les côtés. Et puis voilà, ceux qui veulent ne pas respecter les règles, ils ne les respecteront pas dans tous les cas. Donc voilà, c'est un peu un fond tout dans ma réponse, mais c'est ça que... Oui, globalement, j'ai dit... Ma seule question, ma question principale, c'est pourquoi faire et quel est l'objectif derrière. Et je vois aussi les risques de tous les côtés.
Je vais aller dans le sens d'Hugo. Je suis radicalement opposé à tout système de labellisation parce que j'interviens dans le débat démocratique et dans le débat politique et je vois d'un très mauvais œil un système qui ferait le tri entre les citoyens, entre ceux qui auraient le droit d'une manière ou d'une autre de discuter de l'actualité politique et ceux qui n'y auraient pas accès parce qu'ils n'auraient pas rempli le bon papier ou le bon formulaire auprès de la bonne autorité. Voilà, j'ai pas envie de vivre dans ce genre de pays. Au contraire, je préfère la garantie du pouvoir de tous les citoyens qui le souhaitent de créer leur propre chaîne, de créer leur propre contenu et de s'exprimer, y compris sous pseudonyme, parce que je pense que c'est important et que ça fait partie de la culture numérique. Je connais les dérives, évidemment, qui sont celles d'Internet, bien sûr, le cyberharcèlement en fait partie, mais je considère que les citoyens doivent pouvoir s'exprimer, y compris sur l'actualité politique et y compris sous pseudonyme.
Moi, j'avais une dernière question à vous poser. On va rentrer dans une période politique intense en France avec les élections.
Je fais une pause pour lire le message de Local Things. Merci pour ton premier message déjà dans la communauté. C'est une question qu'on n'a pas abordée encore, elle est très importante. Ils ont juste abordé ici ou là les créatrices de contenu, alors vite fait, hein, très vite fait. Mais est-ce qu'ils ont ou vont aborder ce point sur... Par exemple, d'un, les dangers d'être créateur de contenu, harcèlement, menace, et comment c'est encore plus prégnant pour les femmes. Alors pour l'instant, il n'y a pas eu de question sur est-ce que c'est compliqué d'être créateur de contenu de base ? Est-ce qu'on est menacé ? Est-ce qu'on reçoit des pressions, etc. ? Est-ce que c'est encore plus compliqué quand on est créatrice de contenu ? Alors je spoil, oui, hein, quel que soit le sujet. Ce que je regrette, pardon, je trouve, moi je suis en amour devant les trois là, et devant le travail de qualité des sénateurs et des sénatrices. Je regrette juste qu'il n'y ait que trois garçons. Ah, c'est pas le thème. Ben, laisse-moi en venir à mon point. Je regrette juste qu'il y ait trois créateurs de contenu hommes. Voilà. Si on cherche, on va trouver... moi, j'en reçois régulièrement dans MVP des créatrices de contenu qui parlent d'information. Donc voilà, c'est un peu dommage que ces trois-là soient là. Je pense que c'est formidable. Peut-être qu'il aurait fallu au moins... une créatrice de contenu, quoi. Hein. On aurait pu inviter je sais pas, moi j'en reçois régulièrement dans MVP, j'en recevais aussi dans l'hebdo Étienne, Mimi Hegel, par exemple. Salomé Saké, mais qui a un profil un peu classique. Alors Ava, je l'adore, mais elle fait pas vraiment de l'info, quoi. On parle d'info. Hein. Là, c'est créatrice de contenu, d'information. Manon Bril, ouais. Ouais. Qui on a d'autres encore que j'aime beaucoup, que je reçois. Ok Charlotte. Vous savez, qui on a encore? Amistory, ouais. Bon, bref. Charlie Danger. Voilà. Ouais, donc, en fait, on en trouve assez facilement. Bon, c'est peut-être que ils ont voulu en inviter une et qu'elle n'était pas disponible. Hein. Voilà. Mais bon, voilà. Petit regret, si je puis me permettre.
Présidentiel, comment vous les abordez? Est-ce que vous dites on rentre dans une zone à risque, il va falloir qu'on soit plus vigilant sur certaines informations qui peuvent nous remonter, on va se fixer des règles. Alors vous avez parlé tout à l'heure pour les européennes, on a invité tous les candidats. Est-ce que vous avez une réflexion par rapport aux échéances présidentielles qui arrivent?
Bon, de mon côté, je garde cette même exigence de pluralisme, déjà parce que l'émission phare que je veux développer sera en partenariat avec TF1 en théorie. Le premier épisode devrait paraître demain, et donc je sais que c'est une chose assez chère aussi à TF1, cette notion de pluralisme. Exigence éditoriale, oui, mais pas plus que d'habitude. Travailler avec des journalistes, revérifier, refact-checker 1000 fois l'information, parce que on a du pouvoir aujourd'hui, et un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Et je crois que c'est vrai plus que jamais. Voilà.
Évidemment, l'élection présidentielle, c'est le rendez-vous phare de notre vie politique, qu'on le souhaite ou non. Voilà, que ça nous fasse plaisir ou pas, c'est comme ça. C'est un moment important, c'est un moment fragile, que la tension est maximale, parce que je souhaite toujours m'adresser à un public jeune, y compris à des publics qui vont voter peut-être pour la première fois de leur vie, et c'est peut-être la première fois de leur vie qu'ils vont s'intéresser à une campagne présidentielle. Donc, je dois être au rendez-vous de leurs attentes, je dois répondre à leurs questions, et pour ça, je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire que je ne vais pas faire de commentaires de tweets. La petite polémique du jour, c'est pas vraiment ce que je traite. Ça m'intéresse peu. De toute façon, ce sera mort dans 48 heures. On va passer à autre chose.
En même temps, on est au Sénat, on n'est pas à l'Assemblée. On n'est pas devant des adorateurs du dieu X. Hein.
Chose, je vais essayer de rester un peu plus sur le fond. Je vais évidemment documenter la course de petits chevaux des primaires des uns et des autres. C'est normal, ça fait aussi partie de l'exercice présidentiel. Et puis je vais aussi essayer de m'attaquer au sens profond du programme, à la volonté profonde des candidats. Quand un Dominique de Villepin fait un immense discours à la Sorbonne empreint de philosophie, je pense que ça mérite qu'on s'y intéresse et qu'on essaie de le décortiquer, de voir ce qu'il a à dire. Et ce sera pareil pour les autres candidats. Et du reste, je vais tenter de recevoir dans mon émission Backseat les candidats à l'élection présidentielle, à l'exception de l'extrême droite que je ne recevrai pas. Je vais essayer de les interviewer. Voilà.
À l'exception de... Qu'est-ce qu'il a dit, Jean ?
Dans mon émission Backseat, les candidats à l'élection présidentielle, à l'exception de l'extrême droite que je ne recevrai pas, je vais essayer de les interviewer. Voilà.
Est-ce qu'on aura une question là-dessus là? Parce que du coup, c'est lui qui lâche l'info. Bon, ça, zéro surprise. Hein. Jean l'a toujours dit, ça fait des années. Il n'a jamais dit autre chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'il le dit devant les sénateurs, alors que les sénateurs n'ont pas posé la question. Il n'y a aucune surprise dans la position de Jean, il a toujours eu la même. Hein. Est-ce que les sénateurs vont rebondir là-dessus? C'est ça qui est intéressant.
Pour compléter rapidement, bon, on va avoir tout un tas de formats effectivement qui sont prévus en cours d'élaboration.
Là, ça aurait été Charles à l'oncle. Il fallait appeler les pompiers. Hein. C'était PLS direct.
Pour la présidentielle, pareil. Je pense qu'on sent de notre côté une grosse responsabilité parce qu'on sait que on est suivi par beaucoup de jeunes. On parlait tout à l'heure de la question des tranches d'âge, des moyennes d'âge. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est très suivi. On le disait tout à l'heure par des jeunes, des 18-24 ans. Plus d'un jeune sur deux de 18-24 ans qui s'informe au moins une fois par semaine ou plusieurs fois par semaine via notre chaîne et avec des sessions en moyenne de 15 minutes, donc c'est quand même beaucoup de temps pour s'informer via nos réseaux au quotidien. Ce qui est fascinant à observer, on l'a dit aussi beaucoup aujourd'hui, c'est que c'est plus un sujet que pour les jeunes. Nous, on le voit sur YouTube, par exemple, la moyenne d'âge s'élargit en quelque sorte, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire que de plus en plus de personnes maintenant regardent en famille ou des personnes plus âgées ont découvert parfois via leurs enfants ou leurs petits-enfants. Et donc moi-même, quand je présente ma chaîne, j'essaie de faire attention à ne pas discriminer, à parler que des jeunes, parce que je sais qu'il y a toutes les générations qui peuvent suivre et qui apprécient peut-être l'approche qui peut être faite avec l'équipe. Donc oui, il y aura des choses à faire et je pense que c'est important de faire ce travail-là. Après oui, il y aura toutes les questions qui viendront d'ingérence ou quoi, et ça on en a déjà parlé. Je pense que ce sera encore un sujet pendant les élections, mais voilà. Au passage, juste un petit... Parce que Jean, tu parlais de la question des petites phrases ou des guéguerres politiques. C'est vrai que ça vient souvent lors des élections. Moi, je me souviens de l'élection de 2022 où je m'étais dit avec mon équipe, mais... Dès septembre, on va être concentré sur la présidentielle. Septembre 2021, du coup, on va être concentré sur la présidentielle. Ça va être le sujet pour l'année. Et en fait, on réalisait que les seuls sujets qui remontaient, c'était en fait souvent des sujets de petites guéguerres politiques qui, à nos yeux, n'étaient pas les plus. Il n'y a pas en plus les candidats qui étaient déclarés, officialisés, mais et ça nous semblait pas forcément essentiel et important d'aller sur ces sujets-là. Et donc, on avait passé une bonne partie de cette fin d'année 2021 à continuer à se concentrer sur des sujets d'actualité internationale. On se disait, non, ces sujets d'actualité internationale, ils sont importants, il faut continuer à informer. Là, vous connaissez le contexte international, je pense que ce sera sûrement la même chose. On commencera à informer sur la présidentielle avec tout un tas de formats différents, une pluralité dans les approches, quand ce sera pertinent de le faire et quand il y aura du fond et des sujets de fond à aborder. En attendant, je pense qu'on se concentrera davantage sur d'autres sujets qui nous paraissent importants, l'actualité internationale notamment, mais pas que, parce qu'il y a beaucoup de choses à aborder.
S'il n'y a plus de questions, il nous reste à vous remercier.
Il y avait quelques personnes qui interrogeaient le positionnement de Jean Massier qui vient de dire « Moi, je recevrai sans doute tous les candidats qui le souhaiteront sur ma chaîne avant la présidentielle, sauf l'extrême droite », ce qu'il a toujours dit. Hein. Donc, il y a une totale transparence. Déjà, il n'avance pas masqué. C'est les gens qui ont posé la question, c'est les gens qui n'étaient pas là il y a 15 minutes plus tôt quand Jean a expliqué pourquoi. Pourquoi la télévision et la radio avaient une obligation de pluralisme de par la loi, hein, puisque ces médias sont en nombre limité et parce que les fréquences sont limitées. Donc le législateur a trouvé normal que ces médias en nombre limité aient des obligations, et notamment des obligations de pluralité. Hein. En revanche, pour les médias qui, par leur nature, sont en création possiblement illimitée, n'importe qui peut créer une chaîne Twitch, n'importe qui peut créer une chaîne YouTube. Voilà, par exemple... Je sais que cette commission du Sénat a auditionné aujourd'hui un représentant du Média Frontière, qui est un média d'extrême droite, notamment sur Internet. Bon, ben voilà, il n'y a pas une autorisation des maîtres. Frontière existe parce qu'ils ont le droit d'exister. Et voilà. Et donc, et personne n'oblige Frontière de recevoir Jean-Luc Mélenchon, des responsables LFI. Donc, Jean rappelle cette liberté qui existe également en presse écrite d'ailleurs et pour Internet. Voilà, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'obligation. Si un candidat estime qu'il n'est pas assez représenté sur Internet, libre à lui de créer une chaîne. Jean-Luc Mélenchon a créé sa chaîne. Si Jordan Bardella veut créer une chaîne Twitch, il a le droit de le faire. Si Marine Le Pen veut créer une chaîne Twitch, elle a le droit de le faire. Si un militant RN veut créer une chaîne Twitch, il a le droit de le faire. Et ainsi de suite. Voilà, je pense que le propos est clair. Jean n'a aucune obligation en la matière et en plus, il est d'une totale transparence sur le sujet. Zéro débat.
Merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci beaucoup.
Merci.
Et Mathieu demandait à l'instant, et pendant une élection, c'est pas obligatoire pour l'égalité de temps de parole ? Pas du tout, pas sur Internet. Pas sur Internet. C'est trop court, c'est trop court ce truc. Merci Mumstone. Merci Tom Dac pour ton raid à l'instant. Vous étiez sur quoi ? Merci Ambreplay, merci Marie Gabga, merci The Killer Ewok, merci Bro One, merci Cluster One, merci Hugo, merci Tigre, merci Laura, merci Track, merci Alexis Kevin. C'est trop court, c'est trop court. Alors, le problème c'est que c'est trop court mais c'est très dense parce qu'ils ont plein de questions. Ils ne reposent pas toujours la même question. Alors, du coup, c'est plus rapide. Je me rappelle plus quand, mais récemment j'ai vu une édition, le mec a tenu 6 mois avec 10 questions toujours les mêmes, donc il répétait en boucle, c'était plus long, mais c'est normal. Donc, et puis c'était intéressant de voir que les gens qui posaient des questions écoutaient les réponses. Ça aussi c'était vraiment intéressant. Quoi. Voilà. Mais on a appris plein de choses. On a appris plein de choses, mais pas assez. Je trouve que c'est un, il y a un petit goût de frustration voilà, sur les modèles économiques, sur mais globalement les questions importantes ont été je vous remets à l'image parce qu'elle est belle, ont été abordées. Est-ce que vous trouvez que dans cette audition consacrée donc aux créateurs de contenu d'information sur Internet, vous l'avez compris, est-ce qu'il a manqué des questions importantes ou pas? Je vous lis. Le rôle du CNC, alors l'affaire CNC, entre guillemets, je crois qu'elle a éclaté après cette audition. Voilà. Le CNC, ils en ont parlé. Hein. Sinon. Combien vous gagnez? Pour le coup, ouais, voilà, la question n'a pas été posée, mais est-ce que c'est une question essentielle? Je vous lis. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Il a manqué peut-être des questions sur l'arrivée des contenus générés par IA, intelligence artificielle, et comment on va pouvoir faire la différence entre fake vidéo et vrai contenu. Il y a pas. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Le financement, la précarité, la dépendance à des plateformes étrangères. Ah, la dépendance à des plateformes étrangères. Twitch, Amazon, YouTube. TikTok, Insta, ouais, t'as raison. Ouais, ça aurait pu être une question. Les céréales avant ou après le lait? Les céréales avant le lait. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de question là-dessus. Ok. Il n'y a pas eu beaucoup de questions sur Media One, ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que des auditions, il y en a d'autres. Bon, là, il est un peu trop tard, je vais aller me lire les journaux pour demain matin. Regardez, des auditions, il y en a d'autres. Est-ce que c'est travaux récents? Non. Au moins que là, on arrive directement au truc. Vidéo, j'ai tout cassé. Toutes les vidéos, par nombre de vues, par thème, peut-être. J'ai tout cassé. Voilà, là, c'est bien, voilà. Donc, des auditions de cette commission du Sénat, il y en a d'autres. Aujourd'hui, mercredi 15 avril, il y a celle de Frontières, hein, avec Éric Tenier, qui est l'un des fondateurs de Frontières, donc site d'information d'extrême droite. Donc là, peut-être que ce serait intéressant. Je pense qu'on va la faire, celle-ci. Ça, c'était quoi? Ça, il précise pas. Médias en ligne et fausses informations. Ok. Blast, Basta et Street Press. Attends, je pense que sur le lien que tu m'as mis tout à l'heure. Donc quelqu'un m'a mis un lien, peut-être qu'on verra mieux. Merci, 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 Sugar. Voilà. Attends, je vais me l'envoyer celle-là parce que c'est intéressant. Il y a Brut, Loopsider aussi et Combini. Il y a quelqu'un disait, ah c'est dommage qu'ils auditionnent pas Mediapart. Il y a Mediapart, Disclose, Mediapart, Off Investigation. Je pense qu'il faudra les regarder. Ouais, effectivement. Bougez pas, je vais. Merci Sugar. Je vais me l'envoyer moi, le lien que Sugar m'a envoyé. Je pense que celle de Frontières, par exemple, et celle de Mediapart. Donc, je ne sais pas, dans celle que je viens de vous montrer, je ne sais pas s'il y en a qui vous font envie, mais. Oui. Médias en ligne et fausses informations, c'est intéressant. Blast, Basta, Street Press, tu as envie de le voir. Frontières, tu as envie de le voir. Celle-là, on vient de la faire. Disclose, Mediapart, Off Investigation aussi. Brut, Loopsider et Combini, je trouve ça intéressant. Voilà. Et puis je crois que ça a commencé avec le SNG. Voilà. Pas mal, hein ? On se fait ça ? Bah, pas ce soir, hein, parce que là, je vais aller sur la... Voilà. Merci, Sugar. Génial. Là, je vous laisse, je vais lire les journaux pour demain. Voilà. On va sûrement trouver plein d'actus intéressantes. Vous avez vu des choses dans l'actu d'aujourd'hui ou de ce soir là, qui vont pop demain, des choses qui ont un peu monté. Moi, dans la journée, je m'interdis d'aller... C'est un peu bizarre, hein. Je m'interdis d'aller voir l'info dans la journée pour penser à autre chose. Ah bah, je la connais bien, Celix Dragon Wild. Je l'ai déjà raid. Non, il y a des choses qui montent. Bardella qui fait du zèle sur France 2, mais rien de fou. Renault qui annonce des suppressions de poches chez les ingés. Ok. Alors c'est vrai que ça, c'est un truc que je vous ai jamais dit. Moi, dans la journée, donc vous avez compris que je lis les journaux le soir et le matin pour la revue de presse, pour vous. La loi Yadan, il y a du nouveau. Trump qui s'affiche aux côtés de Jésus, tu te fous de ma gueule ou quoi ? On l'a traité il y a deux jours, MMG. Tu te fous de ma gueule, tu trolles. On en a parlé il y a deux jours. Et donc, dans la journée, je ne m'informe pas. Voilà. C'est une façon de se protéger contre une espèce de tornade d'actualité non-stop. Guéant qui lâche Sarkozy, c'était dans les journaux ce matin, ça. J'aurais pu vous en parler, mais... Et en fait, dans la journée, je ne m'informe pas. Voilà. Une fois par jour, je trouve que ça suffit. Après, vous êtes peut-être plus résistant que moi, mais normalement, il faut savoir se protéger aussi du caractère anxiogène de l'information. Et souvent, comme je le dis, éviter les alertes infos sur votre téléphone. Éviter les heures passées devant les chaînes d'infos en continu. Voilà, la vie, c'est autre chose. C'est très bien d'être un citoyen informé, éclairé. C'est très bien de faire l'effort en tant que citoyen de s'intéresser à autre chose que son petit nombril, à sa petite vie du quotidien, qui peut être quelque chose de très important d'ailleurs, et de s'intéresser à la marche du monde et ce qui vous entoure. C'est très très bien, bravo, mais ne le fais pas non-stop en fait. Choisissez vos moments, voilà, d'infos. C'est pour ça que je lis la presse, personnellement. Et donc, moi, dans la journée, je ne m'informe pas. Je ne vais pas voir les infos dans la journée, jamais. On fait autre chose. Sur ces bonnes paroles, un petit raid. Qui est en live. Et merci de m'avoir accompagné ce soir, c'est bien gentil. Ok. Ah, il est sur quoi ? Ah, c'est pas mal ça. Ok. Je regarde qui sont les amis en live. Voilà, plein de gens que j'aime bien. Ok. Je regarde les gens aussi que je n'ai pas raid depuis longtemps aussi, c'est ça aussi. Hein. Ah, mais quoi, attends, mais t'as raison. Mais t'as raison. Attends, je pense à une proposition de quelqu'un dans le chat là. Mais t'as raison. Mais t'as raison. Alors oui, je l'ai déjà raid, mais je crois que c'est dans le cadre d'un stream caritatif, parce qu'elle était impliquée, et j'ai même joué avec elle à Valo, mais je ne sais même pas si je l'ai déjà, elle, raid toute seule. Eh bien, on va la raid, c'est Célix. Célix qui est une streameuse sourde, hein, malentendante, enfin, elle se présente elle-même comme une streameuse sourde, et là, elle fait une 5-stack à 5 sourds, voilà, et on l'aime beaucoup. On a même joué à Valo avec elle, d'ailleurs. Elle est en live. C'est une très bonne idée. 43 viewers. On va lui donner un petit peu de force. Et c'est mérité. Et c'est une jeune femme extraordinaire. Voilà. Et qui donne du temps pour les autres. Puisque la dernière fois qu'on la raid, elle était en stream caritatif avec d'autres streamers. C'est parti. Je coupe ma caméra. Vous savez, ici, on fait attention. Des bisous. Merci vraiment. J'ai passé un bon moment avec vous. Voilà. Là, comme ça, il ne peut rien m'arriver. On se retrouve demain matin pour la revue de presse. Et on va voir Célix. Voilà. C'est une streameuse qui mérite du soutien, de la force. Oh pardon, Jaka, tu avais fait une proposition, j'avais pas vu, désolé. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Allez, à demain matin, prenez soin de vous, bonne soirée et je vous aime.